Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL.
Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui a deux cotons-tiges qui dépassent sous ses jupes, Ariel Dombal. Une grosse tête célibataire à La Rochelle, mais en couple magique au théâtre, Valérie Mérès. Une grosse tête qui a plus de films cultes dans sa filmographie que le Covid n'a de variant, Gérard Jugnot. Une grosse tête qui défend la cause animale et l'humour vache, Laurent Baffy.
Bonjour.
Une grosse tête qui transpire moins quand il court un marathon que quand il commente un match de football, Yoann Rioux. Et une grosse tête qu'on ne croirait pas s'il nous disait qu'il a peur de prendre un coton-tige dans le nez, Jean-Phi Janser.
Bonjour.
Vous êtes inquiet, il me semble, monsieur Baffy. Je vous vois inquiet.
Bah, très déstabilisé. Vous avez mis la boule de graisse à côté de moi. Et d'habitude, je te vois en face.
C'est pas gentil de parler de monsieur Jugnot comme ça.
Qu'est-ce qui vous prend, Laurent ?
Pourquoi ? J'ai dit quoi ?
De me faire des choses comme ça sur mon physique. On avait dit qu'on n'attaquait pas le physique. En plus...
Vous avez maigri.
C'est pas ça, c'est que ah c'est bon du muscle.
Mais je sais que vous êtes musclé, mon bon Gérard.
Il y a un peu de... Une petite doudoune dessus, mais sinon...
Non, bah on va dire que vous êtes plus rond que Laurent Baffy, vous voyez, par exemple.
Mais heureusement.
Ça dépend, hein, à quelle heure. Hein.
Parce que tu manges beaucoup, Gérard, vous mangez.
Non, mais lui, il boit beaucoup.
Pas en janvier, c'est ma deuxième année.
C'est pas vrai.
Ah oui, j'ai fait dry January, c'est très bien.
Ça alors.
Pas d'alcool.
Et vous dormez
alors quand... je compense avec les putes. Hein.
Mais vous buvez beaucoup d'ordinaire ?
Énormément. C'est une hygiène de vie, hein. C'est tous les jours. Hein. Faut se forcer. Hein.
Et t'arrêtes en janvier, tu ne bois rien en janvier.
Rien, rien.
Bon, mais alors qu'est-ce qu'on gagne à ne pas boire en janvier ?
On boit plus en février.
Voilà.
Bon, je vais tenter une première citation, vous êtes d'accord ?
Oui.
Ah oui, on est là pour ça.
Hein. Ah ben oui, on est là pour ça. Première citation pour Karine Deray, qui habite la Valla en Gier, c'est dans la Loire, qui a dit « Si dans l'écriture, on n'avait pas un jour inventé le passage à la ligne, il y a des livres qui feraient des kilomètres de large. »
Pierre Dac ?
Non, c'est quelqu'un qui vit encore.
Hein ? Humoriste ?
Humoriste.
Grosse tête ?
Grosse tête.
Gérard Jugnot.
Gérard Jugnot,
non. Philippe Gueluc.
Philippe Gueluc, bonne réponse de Yoann Rioux. C'est Philippe Gueluc. Une citation pour Myriam Quille, qui habite Bressuire.
Ah, la Quille, bordel.
Mme Quille, espère un chèque RTL, qui a dit « Une autostoppeuse, c'est une jeune femme généralement très jolie et court vêtue qui se trouve sur votre route quand vous êtes encore avec votre femme. »
Woody Allen.
Woody Allen, bonne réponse de Laurent Baffy. Une citation
on
pour...
peut plus faire ce genre de blague.
Ah non, non. Une citation
pour... Oh, mais il en a fait d'autres, lui. Hein.
Une citation...
Tu sais, quand tu baisses ta fille, après, tu peux tout faire.
C'est sa belle fille.
C'est tendancieux quand même.
Non, ce qu'on veut dire avec Valérie, on n'est pas là pour prendre la défense de Woody Allen. Mais ce qu'on veut dire, c'est qu'elle avait déjà adopté cette jeune femme avant de rencontrer Woody Allen.
Donc c'est bon, il peut la baiser.
Ouais. C'est pas clair quand même.
C'est honteux. Ouais.
C'est pas très bien. On reconnaît que c'est pas très bien. Mais c'est pas comme si c'était une jeune fille qu'il avait adoptée lui.
Oui, mais ça flirte avec l'immoralité, voyez-vous.
Bien sûr, oh, bah c'est vous qui allez donner des leçons.
Oh, oui, alors là.
Ah non, alors là, franchement...
Pardon, Laurent, de prendre la défense de Jean-Phi, mais il n'a jamais baisé sa belle-fille.
Ah non, ça, ah non, il la protège.
Son beau-frère, oui.
Non, mais on n'est pas là pour... On n'est pas là
mais
pour...
Mais non, son beau-frère, c'est une fille.
Ah merde, oui.
Il faut séparer l'œuvre de l'artiste, tout ça le temps.
Pour Cyril Leblanc, qui habite Paris 19e, la citation suivante, qui a dit « L'an dernier, j'étais encore un peu prétentieux. Cette année, je suis parfait. »
Jean-Yann
Non, pas Jean-Yann.
Français. C'est mort, c'est mort.
Ah, ou quelqu'un qui, hélas, n'est plus
français. Jacques Martin, Jacques Martin.
Pierre Desproges.
Non.
Pierre Bénichoux.
Pierre Bénichoux, ah. Bonne réponse de Valérie Mérès. Ah, j'aime bien la suivante aussi pour Catherine Bréal, qui habite Pau, qui a dit « Pour un être modeste comme moi, les applaudissements, c'est très embarrassant, surtout après l'amour. »
Oh. Ah, c'est Jean-Yann ?
Non, c'est pas Jean-Yann.
Groucho Marx ?
C'est quelqu'un qui a été grosse tête, mais il y a un petit moment, plutôt dans les années 90-2000.
Sim ?
Non, pas Sim.
Il est mort ?
Il est mort en 2016, vous voyez, il y a déjà 6 ans.
C'est un acteur ?
Jean Amadou ?
Jean Amadou, non, non. Un acteur, oui.
Ah, Galabru.
Michel Galabru. Ah oui, bonne réponse d'Ariel Dombal, c'est Michel Galabru. Oui. Catherine Bréal, qui habite Pau, espère un chèque RTL.
Mais non,
Ah, mais j'ai un décalage.
Oui, mais on suit, nous, hein, on suit.
J'ai un décalage d'un...
C'est parce que vous avez été à New York.
Vous êtes parce que Anthony Bloch, notre cher collaborateur, ou Rachel, je ne sais plus qui fait ça, je crois que c'est Anthony qui met les noms des auditeurs sur chaque question que je prépare. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a oublié un auditeur. Donc, au début, si vous voulez, pour la première citation, j'ai pris le nom suivant.
Eh oui, ça vous a tout décalé.
Et ainsi de suite. Oh, et donc, j'ai un truc de décalage à chaque fois, mais il faut à chaque fois que je me rappelle le nom, il est viré. C'est son anniversaire, mais il est viré.
Non, bon anniversaire, Anthony !
Oui, bon anniversaire, Anthony. Oui.
C'est ton cadeau que vous avez dans la main.
Regardez comme ils sont faillots, les grosses têtes. C'est pourquoi ils sont faillotes avec Anthony Bloch, parce que c'est lui qui les appelle pour les programmer dans l'émission. C'est lui qui leur dit tu vas venir ou pas la semaine prochaine.
Je t'ai acheté une pièce montée, Anthony, je t'ai acheté une pièce montée.
Alors donc, pour Mme Bréal, non, Mme Bréal, je l'ai faite, hein, ouais. C'est ça. Alors, on va dire pour Laura Lelièvre. Oui. Mme Lelièvre habite pas les eaux dans l'Essonne.
Elle habite pas la Garenne.
Non. Qui a dit, et tout le monde connaît évidemment cette phrase, mais qui en est l'auteur ? Le meilleur moyen de se défaire d'un ennemi, c'est d'en faire un ami.
Oscar Wilde.
Non.
Un politique.
Alors oui, on peut dire que c'était un politique.
Winston Churchill. Clémenceau.
Avant Churchill.
Clémenceau.
Avant Clémenceau.
Il était français.
Ah oui, français, oui.
Jules Ferry.
Jules Ferry avant Jules Ferry.
Napoléon.
Avant Napoléon.
Charlemagne. Oui.
Alors après Charlemagne.
Ah oui. Clovis.
Louis XIV.
Louis XIV.
Si c'est après Charlemagne, c'est après Clovis, vous voyez.
François Ier.
François Ier. Alors François Ier, c'est après François
Ier. Henri IV.
C'est Henri IV. Bonne réponse de Gérard Jugnot. En ce 12 janvier, j'ai une bonne question pour Madame Muriel Ambert, qui habite Rieck-sur-Belon dans le Finistère. Parce que j'ai une liste là de célébrités. Liste étonnante parce qu'on y trouve Jules Renard et Obélix. Pour quelle raison ?
Parce que le 12 janvier, leur est arrivé quelque chose de spécial.
À Jules Renard et à Obélix ?
Oui. Ils ont fait comme j'aime.
Vous voyez bien qu'Obélix est un personnage de fiction, alors que Jules Renard n'en est pas un.
C'est un rapport avec l'Astérix dans la littérature ou l'écriture ?
Non, non.
C'est un rapport avec une particularité physique ?
Absolument, monsieur.
Ah, ils étaient roux !
Oui, bonne réponse !
Et aujourd'hui, on doit faire des bisous à des roues.
Effectivement.
Est-ce que je peux aller faire un bisou à Valérie Pérez ?
Laisse-toi tranquille.
Laisse-moi tranquille.
J'y vais.
Ah oui, non. Oui. Aujourd'hui...
On n'a pas le droit de s'embrasser.
Ne me touche pas.
J'y vais, je vais rappeler. Non, mais arrêtez. Allez,
rappelez Olivier Véran.
C'est la journée embrasse un roux, effectivement. Pourquoi vous êtes dégoûté à ce point-là, Valérie ?
Regardez sa gueule, vous allez comprendre.
C'est la journée, effectivement, où on embrasse un roux.
Ah, tu vois, je te l'avais dit, Jean-Philippe. Tu m'avais dit que c'était en culin brun.
Et là, j'ai la liste des roux célèbres. Obélix, j'ai oublié qui était roux, Obélix. Et Jules Renard, évidemment, l'auteur de Poil de Carotte.
Et Julie.
Était roux, puisque Poil de Carotte, c'est un roman autobiographique de Jules Renard. Sonia Riquiel, Mylène Farmer, Daniel Cohn-Bendit, Antonio Vivaldi aussi était roux.
Mais ça revient à la mode, le roux.
Ah oui, c'est vrai. Ah
ouais, avant, les mettaient sur le bord de la société. Maintenant, c'est
on les brûlait avant.
Je ne suis pas dans la liste.
Si, si, on va lui dire oui, oui, oui.
Toi, t'es dans le dico, la rousse.
Ah. Mais vous êtes une vraie rousse ou pas, vous, Valérie?
Ah ben oui, si, j'étais...
T'es une faux rousse, toi.
Ah, mais non, je suis pas une faux rousse.
Eh, hey, tu viens de te trahir, tu viens de bouffer le cul.
C'est pas vrai. Mais non, mais moi, je l'ai connu jeune, dans les coulisses.
Entre Gérard et Valérie, il a dû se passer des choses, évidemment.
Ah ben oui, alors qu'est-ce que... En fait, j'aurais peut-être dû faire MeToo avec Gérard. Il me montrait tout le temps sa quéquette.
Jamais de la vie. Jamais de la vie.
C'est parce que nous, c'était pas très suite à l'époque.
Ça, on était dans une loge mixte. Mais c'est Michel qui faisait ça.
C'est Michel et toi. Non. Juste avant que je rentre en scène pour que je rie.
Non, bah oui, parce que...
Ah, oui. Ah bah c'était rigolo. Hein.
Ça fait toujours rire une petite bite.
Il y en a que ça fait pleurer.
Et voilà. Moi,
et j'ai lu un truc incroyable, c'est que je ne savais pas ça. C'est que pendant de nombreuses décennies, il y avait la rumeur, enfin c'était une rumeur bête, mais ça a été démenti seulement récemment, que si tu étais rousse et que ta maman avait fait l'amour pendant ses règles. Ah bon, j'ai vu ça dans le papier aujourd'hui.
Mais
ça a été. Il y avait une.
Ah, c'est de la bonne info, hein.
Il y avait des gens. Mais non, mais c'est évidemment des conneries.
Oui,
c'est
très mal revenu. Hein. Il est plus drôle ici qu'à Fort Boyard. Hein.
Non, mais.
Mais ça me sait que c'est complètement.
Ta gueule, la boule. Ta gueule.
Non, mais en tout cas, c'est effectivement la journée mondiale des roues. C'est une journée qui existe depuis 2008. Et cette journée embrasse un roux a été créée en réaction à un feuilleton. Un feuilleton dans lequel...
Enfin, Zora Larousse.
Non, alors on doit dire une série. Moi, je dis toujours feuilleton parce que...
Parce que vous êtes vieux.
Je suis vieux, mais c'est une série dans laquelle le 11e épisode de la 9e saison s'en prenait aux roues. Et un rouquin, justement, n'a pas apprécié cet épisode de cette série et a créé la journée mondiale des roues, embrasse un roux, à cause de cette série. Mais dans quelle série se moquait-on des roues ?
Les Simpsons ?
Non.
Plus belle la vie ?
Top Chef ?
Non.
South Park.
South Park ! Ouais. Excellente réponse de Jean-Philippe Janssen. South Park ! Eh ben c'est bien ça, mon Jean-Philippe. C'est la première fois que vous allez avoir une bonne réponse.
Oui, la première de l'année, ouais.
J'ai une question pour Monsieur Jugnot, qui a récemment joué avec Artus dans un très bon film qui fait un carton sur Netflix.
Étranger.
Pour y gâter, il faut bien le dire. Et Artus est dans le Figaro aujourd'hui sur une demi-page. Mais pour quelle raison Artus est-il en photo ?
Je crois que c'est parce qu'il a eu des problèmes avec son scooter, c'est ça ?
Non, pas du tout.
Donc ça n'a pas de rapport avec son métier, alors ?
Oh, alors ça n'a pas vraiment rapport avec son métier.
Est-ce que c'est un rapport avec sa femme ?
Avec sa femme, non.
Avec son physique ?
Avec son physique, oui.
C'est un tatouage. Un régime.
Un régime, non.
Il s'éteint les cheveux en...
T'as un rapport avec son chien Martine ?
Non.
Il s'éteint les cheveux en platine ?
Non, c'est même écrit à côté de la photo, Artus, comédien et humoriste.
C'est pour une pièce qu'il va faire ?
Non,
ou pour un...
non plus, non.
Mais ce serait un détail physique. Hein.
J'espère qu'il ne s'est pas fait faire des implants capillaires, ce con.
Ah non, ça
n'a rien à voir avec son métier.
Non, avec son métier, oui, un peu quand même. C'est parce qu'il est connu, évidemment, qu'il a été choisi, oui.
Il est
top modèle pour des fringues.
C'est-à-dire ?
Des slips.
Il a un choix qu'il a lancé une mode de une,
de slips.
Il a lancé des fringues.
Des sous-vêtements.
Non, pas des sous-vêtements.
Des grandes tailles.
Effectivement, il fait de la pub pour la mode homme grande taille. Solde à moins 50% chez Capel. C'est dans le Figaro aujourd'hui.
C'est lui qui a dessiné les trucs.
Vous auriez pu être pris Ryu aussi.
Oui, moi je dirais oui.
Lui, c'est des grosses tailles.
Mais j'espère qu'on va faire un jour.
Toute la mode homme grande taille. Alors, c'est marrant parce qu'il y a son nom à côté au cas où on ne l'aurait pas reconnu. Artus, comédien humoriste, 1m82, 130 kilos.
Grand, oui.
Solde jusqu'à moins 50%. C'est de la pub dans le Figaro aujourd'hui. Et c'est notre ami Artus. Je connais pas la marque Capel.
Oui, mais Laurent, c'est bizarre parce que tout à l'heure j'ai vu votre pantalon et c'est bizarre, il baille derrière. J'ai l'impression qu'il y a un problème de taille. Je vous assure,
il baille quand tu te penches.
Votre pantalon, je vous assure. Vous avez un pantalon taille basse.
Mon pantalon ne baille que quand vous parlez.
Et moi, regardez, j'ai tellement perdu de poids que mon jean, il tient plus. Il y a trois tailles au-dessus. Regardez, il tombe.
Bah,
Non, on ne veut pas.
Il montre son cul au public.
C'est pas pour ça, tu peux pas le remonter à cause de ton
pantalon. Et il vous a montré son cul. Prenez vos loupes, il va montrer sa bite.
Une question pour Philippe Plumecoq qui habitait Lancourt dans les Yvelines. On aura au téléphone dans un instant Jean-Philippe Daguerre, dont je suis content que Le Figaro cite son nom aujourd'hui, parce que ce n'est pas le cas dans tous les articles. Mais pour quelle raison devrait-on citer plus régulièrement aujourd'hui dans la presse le nom de Jean-Philippe Daguerre?
Mais parce que là, il a plein de pièces qui cartonnent, et là, il y a Adieu Monsieur Hoffman qui sort au cinéma.
Excellente réponse de Valérie Mérès. Bravo Valérie. Bonjour Jean-Philippe Daguerre.
Bonjour Laurent, bonjour tout le monde.
Et c'est vrai qu'on peut féliciter Olivier Delcroix dans Le Figaro qui rappelle effectivement que ce film qui sort aujourd'hui, très bon film que j'ai vu avec Daniel Auteuil et avec Gilles Lellouche, ce film est quand même une adaptation de votre pièce de théâtre, pièce qui avait obtenu 4 Molières, Adieu Monsieur Hoffman. Je le précise parce que j'ai lu des tas d'articles et j'imagine que vous, ça doit vous faire rager de temps en temps quand même. J'ai lu des tas d'articles où jamais votre nom n'est cité, ni même le fait que c'était une pièce de théâtre avant d'être un film. Vous êtes d'accord ?
Écoutez, moi, comme je suis en train de créer un nouveau spectacle, je suis tellement loin de ces soucis de com', et puis en même temps, je trouve ça normal, c'est le film de Fred Cavaillé, moi j'ai fait ma pièce, il a fait son film que j'ai trouvé remarquable, c'est une libre adaptation, son métier c'est de faire du cinéma, moi je fais du théâtre, et je comprends complètement qu'à ce moment-là, on n'est pas obligé de parler de Jean-Philippe Daguerre.
Bah, y a alors, pas débat, merci, alors, au revoir.
Merci de le faire. Merci de le faire, en tout cas.
Ah ben, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Je trouve que ce n'est pas normal quand une pièce de théâtre est adaptée au cinéma, qu'on oublie carrément quand même que le film était avant tout et d'abord une pièce et qu'on peut quand même au minimum citer l'auteur de la pièce. Tout
et
même.
En plus, 4 Molières.
Mais l'essentiel, c'est que vous soyez heureux de l'adaptation, alors, pour le coup.
Franchement, c'est une vraie libre adaptation. J'ai laissé les clés du camion à Fred Cavaillé. Je savais qu'il ferait un beau film et franchement j'ai beaucoup aimé le film, j'ai trouvé le travail remarquable, le jeu remarquable, même si son histoire est vraiment une libre adaptation. Moi je suis très fier du film, franchement.
C'est vrai que le duel Daniel Auteuil-Gilles Lellouche est très réussi, mais je voudrais citer aussi, parce que je la
Sarah
trouve
Giraudot,
formidable dans ce film. Effectivement, Sarah Giraudot, c'est peut-être même la meilleure des trois pour tout vous dire, elle est extraordinaire. Mais non, mais c'est vrai.
Non, mais moi je suis, le casting est royal, c'est sûr, mais c'est vrai que Sarah Giraudot en plus elle est un pont avec le théâtre extraordinaire. Je trouve que c'est une comédienne de théâtre exceptionnelle. Quand j'ai su que Fred Cavaillé l'avait employé, pour moi c'est un Stradivarius, c'est quelqu'un qui a une finesse de jeu, et je trouve qu'elle arrive à travers chaque réplique à raconter plein de choses. C'est une actrice pour moi de très très haut vol.
Voilà. Alors il faut rappeler le pitch pour ceux qui n'auraient pas vu la pièce et n'ont pas encore vu le film qui sort aujourd'hui. D'ailleurs le sous-titre du Figaro est très bon aussi, Paris en zone grise. Adieu Monsieur Hoffman raconte pendant l'occupation l'histoire d'un joaillier juif et de son employé qui signe un pacte dangereux, ça on le comprend dès le départ, puisque en effet l'un va demander de prendre la boutique de l'autre pour passer en zone libre avec sa famille. Il envoie sa famille dans un premier temps, mais lui ne va pas pouvoir partir en zone libre et il va finalement rester à la cave de la joaillerie pendant que celui à qui il a confié la boutique va tenter de continuer la vente continue, comme on dit dans ces cas-là, mais elle continue, avec les Allemands, c'est bien ça ?
Exactement.
C'est Gilles Lellouche qui joue, il faut le dire, le goy, et Daniel Auteuil qui joue le juif.
Exactement.
Ce qui peut paraître...
C'est une inversion, mais on comprend mieux pourquoi à la fin du... je ne vais pas dévoiler ce qui se passe ensuite, mais je trouve que le choix était audacieux, et c'est vrai c'est vraiment le film de Fred Cavaillé, et je trouve que comment il a réussi à partir de ma pièce à faire sa propre histoire à l'intérieur de la mienne au départ, vraiment moi j'ai été bluffé pendant tout le long du film.
Rappelons que Auteuil, qui est un grand comédien qui s'investit dans ses rôles, et pour aborder ce rôle, il s'est fait circoncire, c'est vrai, c'est pas...
Adieu Monsieur Hoffman est sorti sur les écrans aujourd'hui. Merci Jean-Philippe Daguerre, l'auteur de la pièce au départ.
Merci encore.
Et auteur aussi d'une autre pièce qui a très bien marché depuis, qui s'appelle Le Petit Coiffeur.
Mais oui, mais c'est formidable ce qu'il fait Monsieur Daguerre.
Alors dans Le Figaro, il y a un autre papier qui n'a rien à voir avec le cinéma, celui-là, un papier qui nous emmène en Bretagne. Et on s'aperçoit qu'on connaît mal ce joueur français qui manifestement fait une carrière internationale. Il tient avec son épouse un bar-tabac dans le Morbihan, ce garçon. Et il s'appelle Thibaut Tricol. Mais dans quel sport est-il champion et même en train de devenir un champion international ?
C'est pas au volleyball ?
Au volleyball, non.
Il y a un ballon ?
Un ballon, non.
Sport collectif ou individuel ?
Sport individuel.
La pelote basque ?
La pelote basque, non.
Un sport olympique ?
Olympique, non.
La pelote basque en Bretagne.
Ça remonte ?
La pelote, elle peut remonter.
Oui, oui, ça remonte.
C'est le lancer. Ça remonte du Pays Basque jusqu'en Bretagne.
Bah, bien sûr.
Mais bien sûr.
Avec le réchauffement climatique.
Et je crois que la crêpe descend aussi.
C'est un vrai sport ou pas ?
Ah, c'est un vrai sport, même si ça n'est pas encore un sport olympique. Ça... Et même si, dit-il, parfois on se moque un peu de lui, ce qui n'est pas le cas en Grande-Bretagne ou dans les stades où parfois 30 000 personnes
sont...
Ah, les
fléchettes !
Pardon ?
Les fléchettes ?
Les fléchettes ! Excellente oui. réponse de Johan Rioux.
Les darts.
Comment vous dites ?
Les darts, en anglais, on dit les darts.
Les darts, c'est exact.
Il n'y a pas un championnat du monde en ce moment extraordinaire en Angleterre où ça cartonne à la télé ?
Ah ben lui, il rêve d'intégrer le circuit professionnel. Et c'est vrai que c'est surtout les Britanniques qui sont forts au jeu de fléchettes. Il en a installé un, évidemment, dans son café-tabac.
Le problème, c'est qu'ils font ça souvent près des toilettes. Et quand on sort, il faut faire très attention.
Ah, moi, j'ai déjà pris une de fléchettes.
Ouais, c'est sur la porte des toilettes.
Qu'est-ce que vous dites, vous ?
J'ai déjà pris une. Ma soeur lesbienne a joué avec ses copines aux fléchettes. Alors, elle lançait des fléchettes, mais un jour, je suis passé devant, paf, dans le bras, elle s'est plantée.
Ah non, mais ça, tu parles des champions acupuncteurs. Ils ont deux casquettes.
Et il n'y a pas que les lesbiennes qui jouent aux fléchettes. Hein,
ah, souvent, quand même. Hein.
Moi, j'ai pris trois fléchettes. C'est Olivier Véran qui me les a envoyées. Mais il dit, hein, on m'a souvent rionné quand je disais que je jouais...
Riolé, lisez bien.
On m'a souvent rionné quand je disais que je jouais aux fléchettes, mais quand j'ai montré l'ambiance de ces grands tournois, on m'a pris un peu plus au sérieux. On n'est plus à la kermesse ou dans un garage, c'est devenu un vrai sport international, et j'espère pouvoir... un jour battre les Britanniques chez eux pour gagner des sommes assez incroyables d'ailleurs. Hein. Il paraît que les meilleurs joueurs récoltent plus d'1 million d'euros par an.
Bon.
Oui. Et oui, ça fait un carton absolu. Ah il y a des ambiances, tu vois, à la télévision anglaise, ça bat des records. Et nous d'ailleurs, sur la chaîne L'Équipe, on a diffusé, déjà le dimanche, on diffusait des fléchettes.
Ah, c'est vous qui commentez
non,
ça
Non, ça
aussi.
Je commentais pas, je fais tout le reste, mais les fléchettes.
Il faut une flèche pour commenter les fléchettes. Mais avec Florian Gazan, je vous vois bien faire ça.
Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL.
Toujours avec Valérie Mérès, dont c'est la journée internationale.
Voilà.
Ariel Dombal, Jean-Phi Janssen, Yoann Rioux, Laurent Baffi et Gérard Jugnot. Chronique littéraire, question littéraire. Je dis chronique parce que vous allez comprendre pourquoi je suis déjà sur la question qui va suivre pour Madame Lise Vorbusser à Port des Barques. En effet, je vais vous parler de Chronique d'une mort annoncée, célèbre roman qu'on doit à un prix Nobel de littérature.
Vargas Llosa.
Non, pas du tout.
Chronique d'une mort annoncée, je l'ai lu, Laurent.
Ah oui, oui, il y a même eu un film avec Anthony Delon. Un film de...
Un italien, c'est pas Zeffirelli.
Non,
ou...
un film de Francesco Rosi.
C'est pas Buzzati, non, c'est...
Non plus, non, mais je comprends les...
Eco
Pardon.
Eco
Umberto Eco, non, je comprends.
Eco
L'hésitation d'Ariel Dombal.
Oui, parce que...
Dario Fo.
Non, elle était sur une bonne piste.
Oui. Paolo quelque chose.
C'est espagnol.
C'est pas espagnol.
Amérique du Sud. Amérique du Sud.
Amérique du Sud, oui.
Garcia Marquez.
Excellente réponse de Laurent Baffi. Gabriel Garcia Marquez.
C'est Garcia Marquez qui a écrit « 100 ans de solitude ».
Oui, mais alors, écoutez, les bonnes réponses qui arrivent après, Ariel.
Mais oui, mais quand même, je le savais, je l'avais au bout de la langue.
La question...
On ne va pas faire l'inventaire de tout ce que tu as eu au bout de la langue.
Encore un autre écrivain, et là, ça va peut-être être plus difficile. Et pourtant, vous connaissez tous Paul et Virginie, qui fut d'ailleurs aussi un feuilleton à la télévision, une chanson, même d'ailleurs de Jean-Jacques Debout. Et d'ailleurs, cet écrivain avait appelé ses enfants Paul et Virginie. Mais quel est le nom de cet écrivain ?
C'est pas une femme ?
Ah non, c'est un homme.
Je connaissais Popol et Virginie.
C'est quoi Popol et Virginie, monsieur ?
C'est un porno qu'il a vu il y a longtemps.
Et c'était... Un anglais.
Non, c'est un français.
Ah non, c'est un français. Ça a été écrit en 1788, vous voyez, un an avant la Révolution.
Et en plus, ça a été écrit à l'île Maurice.
Oui, c'est vrai que c'est quelqu'un qui, effectivement, fréquentait les territoires d'outre-mer. Oui.
Son nom est connu ?
Alors, c'est un nom assez connu, oui.
C'est un nom comme Giraudet.
Alors moi, je vais vous dire, je connaissais son nom. Pourquoi ? Parce qu'il a une célèbre rue au Havre, d'autant plus qu'il est né au Havre.
Ah,
oui.
Est-ce qu'il a fait d'autres livres
célèbre. Elle est Coavre, sa ruche.
Oh bah,
ça n'a pas passé la capitale.
Ah, bah, quand même, Paul et Virginie, excusez-moi. C'est pas connu Coavre, Paul et Virginie.
Non. Est-ce que ce n'est pas Paul et... Paul...
Jean-Philippe Ruquier.
Non. on a eu très peu d'écrivains dans la famille.
Est-ce que c'est pas Paul-Émile Victor?
Ah non, 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 ça
rien
c'est...
À voir. En 1788. Non, mais bah, dis donc, il faisait pas son âge.
Autant elle dit des trucs intelligents après la réponse, autant avant.
C'est la poire aux conneries.
Non, non, mais c'est pas Giraudet, Giraudon.
Ah, non,
c'est
non.
Giraudet, c'est les quenelles.
Non, mais il y a une particule, en tout cas, dans le nom. Ça, on ne peut rien vous cacher.
Raphaël de quelqu'un. Non, non.
Il a un prénom, d'ailleurs, très rare, voyez-vous.
Ah oui.
Onésime.
Non, non, non.
Un petit jeu de mots,
Il y a
Laurent.
Même deux prénoms, d'ailleurs. Il y a un prénom et aussi un prénom dans son nom de famille.
Ah, c'est pas René Étienne.
Non, René Étienne, non, non, non.
C'est
non,
pas
non.
Jean qui le... Dans
ah,
le nom.
Non,
ah non,
non
c'est
non.
Pas rare, Jean Connard.
Gervais de quelque chose.
Ah, Gervais de rien du tout.
Nico, non, non. Eugène. Casimir.
Ah, Casimir, non. Eugène. Non, 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 non. Eugène non plus, non. Non.
Irénée.
Non, non, non. Non, mais ça, alors, je vais vous dire, c'est une culture générale.
Ah, c'est où, on sait pas. Hein.
Exactement, monsieur Janssen.
Alors, mais moi, je le sais, je l'ai au bout de la langue.
Oui, encore.
Mais crache un coup, parce que là...
Tu trempes vraiment ta langue partout.
Ah oui.
Le nom ne me revient pas, mais je le connais, Laurent. Vous me faites confiance, vous me donnez la bonne réponse.
Ah non, sûrement pas. 300 euros peut-être pour monsieur Clisson de Metz, et qui sait, 100 euros de plus dans la salle. Si
vous nous disiez au moins la première lettre du prénom.
Comment ça, la première lettre du prénom?
Bah, la première lettre du prénom.
Ah, B, si vous voulez.
Ah, B. Ah.
Comme vous trouverez B. Blaise
bienvenue.
De Blaise de
bonne aventure.
Chose.
Bonne aventure, non.
Mais ce
non,
prénom
non.
existe encore en France, certains le portent encore.
Ah non, c'est... non, non, non.
Bien aimé.
Bernard de Girardin ou un nom comme
oui.
ça.
Ah, ça se rapproche.
Bernardin de Saint-Pierre.
Bernardin de Saint-Pierre. Wow. Ah. Excellente réponse. Alors là, bravo.
Je l'avais sur le bout de la langue.
Bravo Gérard.
Mais épaté.
Bah, j'ai aidé Gérard.
Il n'a pas de mérite, il est contemporain.
Mais d'où ça vous revient Bernardin de Saint-Pierre?
Parce que c'est j'ai dit Bernard de Girardin.
Pas les Virginie.
En même.
Un nom qui me revient. Comme
Bernardin de Saint-Pierre.
Des fois quand je mange pas bien, j'ai des renvois.
Qui part aujourd'hui pour les anciennes colonies doit faire une escale au pays où naquirent Paul et Virginie. J'aimerais partir à son bord.
C'est Jean-Jacques Debout avant qu'il écrive pour Chantal Goya, vous voyez, c'est ah l'époque oui. Où il chantait lui-même.
Chantal Goya, le peintre ou la tâche
Vous l'aimez bien, Chantal, alors.
Je l'adore.
Elle nous, elle nous entend pas, mais elle nous écoute.
Elle est loin de faire du cordeur.
Elle a fait rêver la France pendant des décennies.
La gueule, comme... la boule.
Mais non, mais elle, comme Dorothée à la télé. Mais non, mais je l'adore.
Qu'est-ce que vous... ta gueule, la boule.
Qu'est-ce que vous connaissez comme chanson de Chantal Goya,
mais Johan? C'est pas bah, le lapin. Non, le chasseur et le lapin.
Bécassine, elle aime lapine.
Oh non.
Un lapin. Allez, non, on le fait ensemble. Allez, on le fait
la
ensemble.
La gueule, la boule.
Un lapin. Ce matin, un lapin a tué un chasseur.
C'était un lapin qui... C'était un lapin qui avait un fusil.
Redevient Virginie, d'ailleurs, c'était le titre exact de cette chanson, mais comme vous l'avez entendu, ça parlait bien de Paul et Virginie, l'œuvre de Bernardin de Saint-Pierre. Une question zoologique à l'attention de Pierre Sisley qui habite dans le Tarn-et-Garonne, mais surtout à l'attention de Laurent oui. Baffy qui me réclame régulièrement des questions zoologiques. Eh bien, je vais vous demander quel est le seul félin qui dort comme un chien.
Comment le guépard
en fusil. Le guépard, non.
En le fusil, jaguar en fusil.
Le jaguar, non.
Mais comment que ça dort un chien?
En fusil, en
c'est
fusil.
Qu'il dort la tête reposant sur ses pattes antérieures étendues comme un chien.
Est-ce le
que,
lynx.
Est-ce que vous comprenez
Oh, c'est mignon.
Ma chatte a fait ça.
Oui, mais justement.
Le chat, bah le chat.
Ah bah non, mais c'est pas la réponse, c'est pas votre chatte à vous, hein, voyez. C'est le seul félin à dormir. Votre chatte, elle dort sa tête sur ses pattes antérieures.
Ouais, c'est plein de choses. C'est vrai, mais oui, elle dort sur ses pattes est-ce que c'est... antérieures.
Attendez,
oui.
Montrez-moi, c'est quoi les pattes antérieures?
Bah, c'est celle du bas, là, c'est ça, les pattes antérieures.
Non, c'est pas antérieures.
La chatte a quatre pattes comme ça. Comme ça.
C'est pas l'oslo.
Si je dis ses pattes antérieures,
vous avez
c'est
dit
l'oslo.
L'oslo. Excellente réponse.
Et c'est pas une... question zoologique, c'est une question géographique.
Non, pas Oslo comme la ville. Oslo, O-C-E-L-O-T. C'est quoi un Oslo, alors, monsieur ?
C'est un félin magnifique qui, maintenant, est protégé, mais il a été chassé pour sa peau.
Il est acheté.
Ah, il est acheté.
Oui, bah si oui, s'il est à vendre, il est acheté.
Non, mais il a des petites taches.
Oui, comme oui. Beaucoup de félins en
oui,
même temps.
Très souvent, mais c'est bien, t'as un sens de l'observation assez développé. Hein.
C'est un bon grimpeur comme le puma, ah, mais il est plus grand qu'un puma. Ah, oui. C'est la poitrine au-dessus.
Il est plus svelte, mais il est plus long qu'un puma, mais il est très svelte. Oui.
Et il a un odorat très développé, et en tout cas, il dort avec la tête qui repose sur ses pattes antérieures étendues, comme un chien. Et c'est le seul félin, à part la chatte de monsieur Janssen. Ah
oui, la dites. Seule qui regarde.
C'est le seul. Toujours à l'affût, Valérie. Hein. On va même parler de la limule aussi. La limule est une des quatre espèces étonnantes qui a un sang assez particulier.
Il est bleu.
Il est bleu. Ouais. Le sang de la limule est bleu. Bonne réponse de Laurent Baffy.
Et c'est quoi une limule ? C'est quoi
une limule ? On appelle ça le crabe fer à cheval et son sang est bleu. Et c'est comme un peu les sangsues. Les chercheurs misent beaucoup sur cet animal pour essayer de créer du sang synthétique. C'est un grand espoir pour le sang qui manque.
En fait, quand on ne veut pas que tu dises des saloperies, il faut te poser des questions sur les animaux.
Exactement.
Il peut en dire quand même.
Oui, par exemple, je donne une nouvelle chance à Valérie Pouèche qui habite Cranfsal en Haute-Savoie. Pouvez-vous me dire quel est le nom qu'on donne à la fourrure de la moufette ?
La fourrure, moi je ne suis pas très fourrure, je suis contre la fourrure.
Ah oui, je sais bien, mais enfin quand même la moufette, vous voyez ce que c'est
d'ailleurs. Comme, oui, c'est un mustélidé.
Oui, et d'ailleurs on les appelle parfois les moufettes comme ça aussi, du nom de leur fourrure.
Ah, le pinson ?
Comment ?
Les sconces ?
Les sconces ! Excellente réponse de Laurent Baffy.
Alors mais pris pour un sconce.
Oui, est-ce que c'est un sconce
c'est des mustélidés, tout ça. C'est
ça se schlingue.
Oui. Ah oui.
Ça schlingue.
Mais oui, ça a des glandes anales qui sont très fortes et qui sont très utilisées en parfumerie, bizarrement.
Ah bah lui aussi, tu vois.
C'est pour ça qu'on vous a installé à côté de Johan Rioux. C'était pour que ça vous revienne.
Qui ne sera jamais utilisé en parfumerie.
Ah bah alors j'ai encore une quatrième question.
Festival.
Ah bah oui, c'était
on tente les quatre à la suite.
C'était pour votre retour en 2022, monsieur Baffy.
C'est gentil.
Eh oui, parce que c'est dans Le Monde, une découverte scientifique, c'est paru dans Le Monde daté d'aujourd'hui, et il s'agit des dauphins, et plus particulièrement des femelles dauphins. Qu'a-t-on découvert, si on en croit les scientifiques, et particulièrement Madame Patricia Brennan, qui signe cette étude, une étude qui nous vient du Massachusetts. Qu'a-t-on découvert chez les femelles dauphins ? Les dauphines, si vous plaît.
Elles adorent les pommes dauphines, non ?
Non.
Travaille à Miss France.
Finalement, c'est...
Alors ça, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a découvert chez les...
C'est pas les dauphins mâles qui font les enfants ?
Non,
l'inverse.
Mais c'est vrai que ça a un lien avec le sexe.
C'est elle qui décide de la relation.
Ouais. Non.
Ah, c'est elle qui ont le dard. Enfin, c'est elle qui ont le.
Elle trie les spermatozoïdes.
Non plus.
Les spermatozoïdes. Le dauphin éjacule dans l'air et hop,
arrête, tu m'excites.
Éjacule dans l'air.
Avec ses boules de flipper.
Allô. Il dépose ses œufs.
Il dépose
sa semence sur le sol.
Non, alors, vous pouvez oublier le mâle.
Ah, d'accord.
Et vous intéresser seulement à la femelle.
Elles ont des rapports homosexuels.
Homosexuels, non.
Elles peuvent se faire un cunnilingus toutes seules. Ouf.
Ça l'excite l'autre là-bas.
Ah ouais. J'essaie de le vider. Comment on fait un cunis tout seul hein.
Ouais, bah toi tu y arriveras jamais. Hein.
Faut être très souple.
T'es pas un dauphin là maintenant.
Non, en ça elle se rapproche. C'est ce que nous dit en tout cas l'étude du Massachusetts. Elle se rapproche des femmes humaines, voyez-vous.
Elle se touche.
Non.
Elles peuvent employer un moyen de contraception.
Elles se masturbent.
Non, bah alors elles peuvent parce que pourquoi.
Ah, elles peuvent avoir un enfant.
Elles ont un clitoris.
Elles
ont un clitoris.
Elles connaissent le plaisir clitoridien.
Oh là là.
Excellente réponse de Laurent Baffy. En effet, une équipe américaine a découvert que chez les dauphins, les femelles disposaient d'un clitoris qui fonctionne. En examinant les organes sexuels prélevés sur 11 grands dauphins, les chercheurs ont trouvé des terminaisons nerveuses et des tissus érectiles susceptibles de se remplir de sang. Et la place du clitoris à l'entrée du vagin permet aux femelles dauphins effectivement d'être stimulées lors des pénétrations.
Eh ben voyez-vous.
On va demander à Miss France, mais les dauphines...
Ah ben tu vois.
Les dauphines sont clitoridiennes.
Ah, mais vous savez que le clitoris chez la femme, c'est comme la minuterie. Hein. Dans le noir, c'est impossible à trouver. Hein.
Bah, c'est parce que t'es pas doué. Hein.
Je sais pas trop bien à quoi que ça sert, mon chou.
C'est très dur à trouver. Enfin,
C'est l'autre qui dit ça. Spéléologue. Bon.
Non, parce que moi, je parle avec mes copines. Elle m'explique et tout, elle me montre.
C'est ça, il y en a pas sur les poupées gonflables, tu peux pas le savoir.
Mais Valérie, tu peux confirmer que c'est très compliqué à...
Non, ce sont des choses dont on ne parle pas.
Non.
Monsieur Riou.
En tout cas, moi, j'ai failli le dire qu'elles avaient un clitoris, les dauphines, mais je pensais que c'était tout le monde qu'on avait, enfin, toutes les femelles de la Terre.
Chez le protèle, la femelle a un clitoris tellement développé qu'il est plus gros que le pénis du mâle.
Chez qui?
Le protèle.
Qu'est-ce qu'un protèle?
C'est une sorte de hyène. C'est la,
ça sert à tenir les
pantalons. Un canidé africain.
Une paire de protèles. Monsieur Juniot n'est jamais déçu avec vous.
RTL, le livre du jour.
Le livre du jour est signé Géraldine Maillet, qu'on va avoir au téléphone dans un instant. Elle publie chez Fayard un livre assez étonnant, d'ailleurs, parce qu'elle imagine une conversation qui a existé, certes, mais évidemment, elle n'en a pas l'exact teneur, et même une correspondance entre Ava Gardner et François Sagan. Ça s'appelle « Franc et Ava », le livre de Géraldine Maillet. On en parlera avec elle dans un instant. D'ailleurs, on peut voir Ava Gardner en couverture du livre, et en quatrième de couverture, c'est François Sagan, jeune, qu'on retrouve. Mais ce n'est pas la première fois, d'ailleurs, que Géraldine Maillet se met à la place d'une star américaine. Elle l'avait déjà fait dans un précédent livre qui s'appelait Splendor. Et quelle est la vedette américaine dont elle imaginait
Marilyn Monroe?
Marilyn Monroe, non.
Lauren Bacall,
non.
Mae West,
non.
Rita Hayworth,
non.
Marlène Dietrich,
non.
Mais un sexe symbole?
C'est cette époque-là.
Lauren Bacall?
Sexe symbole, oui, c'était une très jolie actrice américaine.
Mais qui est assez récent.
Non, c'est pas assez
elle
récent.
Elle a fait des films en couleur ou en noir et blanc?
Elle a fait des films en couleur, oui.
Grace Kelly, non.
Est-ce qu'elle a fait des Hitchcock?
Hitchcock, je ne crois pas, non.
Kim Novak.
Liz Taylor, Kim Novak, non.
Carole Baker,
non.
Elle a eu des Oscars? Elle a eu des...
Je ne crois pas qu'elle ait eu d'Oscar, même si elle a été nommée plusieurs fois.
Charlotte Julien,
non.
Natalie Wood,
excellente réponse de Gérard Juniot. Géraldine Maillet, bonjour.
Bonjour Laurent Ruquier, bonjour tout le monde.
Vous me confirmez que Splendor, c'était le nom du bateau sur lequel elle se trouvait quand elle s'est noyée. Et je me souvenais de ça parce que j'ai vu Elsa Zilberstein au théâtre il y a quelques années jouer l'adaptation de votre livre.
Absolument, et Nathalie Wood est morte, elle était donc sur le bateau Splendor qui avait été débaptisé. D'ailleurs, ça porte malheur de débaptiser un bateau. Et voilà, elle est morte dans les rives, l'Atlantique, près de Santa Catalina, non loin de Los Angeles.
Alors, oublions Natalie Wood, parce qu'effectivement, vous êtes mis dans la peau d'une autre vedette. Cette fois, c'est Ava Gardner. Et pas seulement Ava Gardner, mais aussi François Sagan. Parce que vous êtes tombé un jour sur le magazine Elle, je crois, c'est Elle, c'est ça?
Oui, tout à fait, ouais.
Avec en couverture.
Pendant le confinement.
Voilà, avec en couverture. Alors, je me dis, c'est un vieux magazine sur lequel vous êtes tombé à ce moment-là.
Un vieux Elle, de février 1990.
Puisque c'est la date de la disparition d'Ava Gardner. Elle est morte le 25 janvier 1990. Évidemment, cette année-là, Françoise Sagan était encore en vie, elle aussi, et elle a signé un papier sur la disparition d'Ava Gardner. C'est ça le point de départ de votre imagination?
Absolument, le point de départ, c'est ça. Ava Gardner, une sublime couverture de photos de couverture d'Ava Gardner et un texte incroyable de Françoise Sagan, un texte sublime.
Que vous publiez d'ailleurs dans le prologue.
Oui, absolument, je le publie parce que c'est quand même un texte, évidemment on reconnaît la prose de François Sagan, mais elle n'est pas minimaliste. C'est une prose qui est pleine de chaleur humaine, qui est passionnée. Et là, dans ce texte-là, elle avoue qu'elles se sont vues pendant un mois, en décembre 1967, qu'elles ont été un peu complices, qu'elles ont passé des nuits blanches, des après-midi oisives, qu'elles ont partagé ensemble des petits scandales, qu'elles se sont rencontrées, parlées, amusées. Voilà, exactement. Et de là, forcément, moi, j'imagine qu'il y a eu un rapprochement.
Mais alors, voilà, vous imaginez, est-ce que vous pouvez en être sûre, alors ?
Oui, parce qu'en fait, même les biographes en parlent, en fait, de ce rapprochement. Elles étaient toutes les deux bisexuelles, elles ont une attirance. Je ne peux pas penser que deux oiseaux de nuit comme ça, qui étaient à la fois, qui avaient 1000 points communs, donc pour s'assembler, et en même temps 1000 différences pour être aimantées, n'ont pas été subjuguées l'une par l'autre. Et donc tout, pour moi, moi j'ai fait un travail d'enquêtrice, de détective. Je suis partie à la recherche de preuves, en me documentant, en regardant des films, en lisant les livres. Et tout me pousse à croire donc que François Sagan est venu voir Catherine Deneuve au studio de Boulogne-Billancourt. Là, elle rencontre Ava Gardner, qui n'est pas du tout heureuse sur ce tournage. C'est une femme qui boit, qui a des addictions, qui dépend du désir des autres, qui trouve que c'est très dur d'être une actrice à 45 ans à Hollywood. François Sagan, elle, est plus jeune, elle a 33 ans, elle a beaucoup de succès. Et bien forcément, voilà, ces deux femmes vont s'attirer.
Elles ont une quinzaine d'années de différence, c'est ça à peu près ?
Absolument.
En tout cas, c'est une belle histoire que vous imaginez, que vous racontez, qu'elle soit vraie ou pas, même si vous avez la quasi-certitude qu'il s'est passé quelque chose entre elles. Franc et Ava, je n'ai pas donné le titre. Franc, c'est comme ça qu'on appelait François Sagan.
En tout cas, c'est comme ça qu'Ava l'appelait, Fran, parce qu'en fait, elle avait deux amours dans sa vie, Frank Sinatra et François Sagan, les mêmes initiales, ah oui. F et S. Ce sont les deux personnes qui ont le plus compté dans sa vie.
Et Bernard Ménez, dont on parle peu.
Un petit peu moins, on en parle, c'est l'homme de l'ombre.
Fran et Ava, alors vous voyez, je prononçais mal, parce que moi, pour moi, Françoise, Fran, mais effectivement, il faut imaginer que c'est dans la bouche d'Ava Gardner, donc c'est Fran et Ava, le titre de votre livre publié chez Fayard. Ben, on va dire dans la peau de laquelle ça a été le plus facile de vous glisser, dans celle de Françoise Sagan ou dans celle d'Ava Gardner?
Ah mais moi je me serais jamais permis d'être dans la peau de François Sagan, je me suis mis que dans la peau de Ava Gardner. D'ailleurs le livre se passe dans un aéroport puisque François Sagan dans ce texte du Elle, elle dit qu'elle a croisé à nouveau Ava Gardner 15 ans après ce mois torride à Paris et qu'elles se sont vues, qu'elles se sont regardées, qu'elles se sont épiées mais qu'elles ne se sont pas parlées. Elles n'ont pas osé finalement franchir le pas. Et donc moi, je suis Ava Gardner, je suis dans la peau d'Ava Gardner et je me permets de parler à la place de Ava Gardner, mais pas à la place de François Sagan parce que c'est une écrivain culte et c'était très compliqué pour moi de m'emparer de la prose de François Sagan.
Fran et Ava, c'est le nouveau roman, car c'est un roman tout de même, signé Géraldine Maillet, publié chez Fayard. Merci Géraldine Maillet, c'était le livre du jour. Ah, une question historique pour Béatrice Delacroix qui habite Chevilly-la-Rue. Quelle célèbre personnalité historique est morte en criant « Malheur, je crois que je deviens Dieu !» Et au moment de mourir, il fut victime d'une diarrhée qui l'épuisait. Et il a même ajouté « Il faut qu'un empereur meure debout !»
Ah, j'ai vu ça, Vespasien.
Et c'est Vespasien. Oui. Bonne réponse de Gérard Jugnot.
J'avais vu ça, oui.
C'est quand même marrant.
C'est marrant, parce que le mec qui avait inventé les Vespasiennes... Eh
oui. Il meurt en diarrhée.
Oui.
Ça s'appelle un accident de chiasse.
Une question pour Mickaël Lauré, qui habite Valpuiseau. Valpuiseau, c'est dans l'Essonne. Et je vous emmène à Ouistreham, puisque c'est un autre des films qui sort ce jour. Un film tiré effectivement d'un roman qui s'appelait Quel Ouistreham.
Aubenas.
Voilà. Aubenas. Et on racontait, on raconte toujours d'ailleurs, le quotidien de ces femmes qu'on appelle parfois invisibles, qui font le ménage à bord des ferries, qui quittent Ouistreham pour Portsmouth. Et ce film se passe donc dans cette ville qu'on appelle d'ailleurs maintenant Ouistreham Rivabella. Et cette ville, Ouistreham Rivabella, où je vais vous emmener, eh bien, il y a là-bas une statue en bronze d'une personnalité politique qui a vécu dans cette ville d'Ouistreham et qui fut en plus prix Nobel de la paix en 1926. Qui fut prix Nobel de la paix en 1926 et a vécu à Ouistreham au point d'avoir sa statue en bronze là-bas.
Est-ce que c'était un Anglais ?
Contre l'esclavage ?
Pardon ?
Il était contre l'esclavage ?
Non, il était pour la paix. Il avait œuvré en 1926, on va dire, pour les relations internationales entre la France et l'Allemagne après la Première Guerre mondiale. Bon, alors, ce qui s'est passé par la suite l'a un peu contredit, autant vous dire. D'ailleurs, les Allemands ont voulu supprimer la statue qui existait déjà de lui là-bas à Ouistreham pendant les années 40.
Jean Monnet ?
Jean Monnet, non. Il a été 11 fois président du Conseil et 26 fois ministre sous la Troisième République.
Auriol.
Et il a des rues, des places.
Boulanger.
Partout en France. Boulanger, non. Félix Faure, non.
C'est pas Coty.
Vincent Auriol.
Coty, non.
Il a jamais été président de la République.
Jamais président de la
Daladier.
République. Daladier, non.
Non, jamais président.
Il a une station de métro.
Alors, station de métro, je ne crois pas.
C'est pas Clémenceau.
Clémenceau, non.
Thiers.
Thiers, non.
Quart.
Un quart, non plus.
Demi.
Et trois quarts, non.
Moitié non plus.
Je vous vois venir.
Il a tenu Clémenceau.
Est-ce qu'il a fait signer un traité?
Ah bon. Non, il n'a pas fait signer.
Il a fait la guerre de 14.
Un traité, mais je vous ai dit oui, effectivement. En 26, si on lui a remis le prix Nobel de la paix, c'est parce qu'il avait œuvré comme ministre des Affaires étrangères en faveur de la réconciliation, déjà à l'époque, vous voyez, entre la France et l'Allemagne.
C'était pas un militaire.
Et évidemment, tout ça a été contredit ensuite par la Deuxième Guerre mondiale.
Ah oui. Il a connu le soldat inconnu ?
Comment ça, il a connu le soldat inconnu ?
Est-ce que ce ne serait pas Gambetta ?
Ah, le Gambetta, non, il n'est pas là, non.
C'est dans quel arrondissement, sa rue ?
À Paris ?
Oui.
Il a une avenue à Paris qui est tout près de la Porte d'Orléans, voilà.
Ah oui.
Alors, une...
Monsieur Périphérie ?
Monsieur Pernetti ?
Alors, sa ville natale n'est pas Ouistreham. Hein. Je vous ai dit qu'il vivait à Ouistreham, qu'il a une statue à Ouistreham. Mais sa ville natale, c'est Nantes.
Ça finit par Hack, son nom ?
Pas du tout.
C'est pas...
Tolbiac.
Boré ?
Non, non, non. Et alors là,
petit
je vais pas vous...
C'est pas un nom composé ?
Ah non, mais je vais pas vous donner toutes les villes où il a une... C'est dingue, hein ? À Aix-en-Provence, un boulevard. À Amiens, une place. À Bordeaux, un cours. À Cambrai, une place. À Charleville-Mézières, l'artère principale. À Châteauneuf-sur-Charente, une
c'est
rue.
C'est pas Mirabeau,
à Dijon, Mirabeau. Une avenue. À Évreux, un lycée, une avenue. À Fontainebleau, une rue. Ah. À Issy-les-Moulineaux, une rue. À Laval, un pont. À Levallois-Perret, une rue. À ne pas vous faire la liste.
Oui. Bah vous, c'est ce que vous faites. Hein.
Au Mans, une place. Non,
okay,
c'est pour,
il est connu, d'accord.
C'est pour vous humilier. À Montauban, une avenue. À Montreuil,
ah oui.
Un boulevard.
Ah oui, oui.
À Mulhouse, une avenue.
Il a une particule.
À Nancy, non. Une rue. À Orléans, un boulevard.
Est-ce
à
qu'il
Reims,
y a un nom composé ?
Une place. À Rennes, une avenue. À Saint-Nézère, un
lac.
Il y a plein de rues d'avenues.
Arrêtez-le.
À Strasbourg, une avenue. À
Toulouse. Arrêtez-le, un médecin.
À Toulouse, une avenue. À Vesoul, une avenue.
Ah, ça y est. J'ai trouvé. Monsieur Bitoum.
C'est Bitoum.
Du Bitoum.
Bitoum.
Mais qu'est-ce qu'elle nous raconte ?
Si, il était dans le Grand Pardon, monsieur Bitoum.
Non, mais le quai de Bitoum.
Non, mais c'est n'importe quoi. Hein.
C'est Béthune.
300 euros, là, pour quand même un homme politique...
Ce seraient les premiers.
Un homme politique majeur dans la vie politique française. Et Michel Lauré, lui, va toucher, évidemment... 300 euros. Et voilà, j'envoie le chèque à Valpuiseau dans l'Essonne. Nantière, on l'avait déjà dit. Oui. On ne dit plus rien, monsieur Rioux. Vous allez dans le public, levez la main, ceux qui ont la réponse. Oui, regardez. Au moins 15, 12, 13, 14 mains.
Oh, il y en a beaucoup.
Bonjour,
qui
madame.
Veulent pisser sur le nombre. Hein.
Comment vous vous appelez ?
Je m'appelle Chloé.
Alors, vous venez d'où en France ?
À Genève, en Suisse.
D'accord, c'est... Ah, là. International, les grosses têtes.
Allez, encore du pognon qui part en Suisse.
C'est votre première fois aux grosses têtes ?
Absolument pas.
Ah, d'accord. Alors, dites-moi la bonne réponse, alors.
J'espère, c'est Frédéric Mistral ?
Ah, pas du tout.
Non. Ah,
ce n'est pas Frédéric Mistral.
C'est pour dire des conneries, hein.
Ah, tu peux rentrer en Suisse.
Laurent, j'ai une autre... Il y a beaucoup de mains qui se lèvent.
Ah, ben oui, je sais, je vois bien.
Bonjour, madame, comment vous vous appelez ?
Bonjour. Anne.
Bonjour Anne, vous faites quoi dans la vie ?
Rien.
Et la réponse, Anne ?
Aristide Briand.
C'est la bonne réponse, bravo. Évidemment. Aristide Briand, bravo
désolé,
madame.
Je suis désolé.
Une question pour Ariel Dombal et Stéphane Gillet, qui habite Bachan dans le Nord. Pourquoi je dis pour Ariel ? Puisqu'il s'agit de retrouver le nom et le titre, donc, d'un célèbre opéra. Un opéra dont je vais vous donner, évidemment, les noms des personnages principaux. Si je vous dis que la servante s'appelle Kundry, que le magicien s'appelle Klingsor, et le roi...
C'est Mozart.
Le roi Titurel ou... Amfortas.
La Turlute enchantée.
Non.
Ouais.
Et ce n'est pas un opéra de Mozart.
Ah bon, c'est pas la flûte enchantée.
Ah, c'est pas la flûte enchantée. Non, non.
Il y a un magicien dans l'histoire ?
Pardon ?
Il y a un magicien dans l'histoire ?
Oui, il y a un magicien dans l'histoire, mais c'est pas Stéphane Plaza, Valérie, je vous vois venir.
C'est
pas Casse-Noisette.
C'est italien, Laurent ?
Ah non, c'est pas italien.
C'est allemand.
Ah oui, c'est plus allemand, oui. Titurel, c'est l'ancien roi, Amfortas, le magicien Klingsor, ex-chevalier du Graal, et Kundry, servante du Graal.
C'est Wagner ?
Wagner, oui.
c'est Wagner.
C'est le Ring.
Le Ring, non.
Les Valkyries.
Mais on est bien dans un opéra de Wagner.
La Valkyrie.
La vache qui rit, non.
Les anneaux de Nibelung.
Non plus, non. Non,
est-ce
non,
que
non.
C'est un prénom en titre?
Alors, c'est un... Non, c'est pas un prénom. Non,
mais il y a un nom.
Il y a un nom, oui. Oui, oui.
Et c'est monsieur quelque chose.
Ah non, non.
Est-ce
non.
que c'est Parsifal?
Et c'est Parsifal. Ah. Bonne réponse d'Ariel Dombal. Ouf.
Bon.
Vous auriez été humilié, Ariel. Oh
là, c'est non. vrai, c'est vrai.
Parsifal, de temps en temps, je pose quand même une question pour Ariel. Il faudrait que je trouve un truc pour... Si, je peux trouver quelque chose pour Valérie Mérès. Chère Valérie, il s'agit de cinéma. Et ça, c'est pour vous, tout de même.
Thierry Lhermitte.
Monsieur Baffi, une question pour Frédéric Higier, qui habite Marly-Gaumont, c'est dans l'Aisne, évidemment. Pouvez-vous retrouver le titre du film qui réunissait Annie Cordy, Marlène Jobert et Charles Bronson?
Le passager de la pluie.
De la pluie.
Le passager de la pluie, Charles Bronson et Annie Cordy. Ça paraît une affiche étonnante, hein. Mais c'est bien Le passager de la pluie, un film de René Clément.
Mais écrit par Jacques Prizot, non?
Et Charles Bronson venait de faire Le bon, la brute et le truand.
Ah oui, c'est vrai, oui.
Voilà.
Et monsieur Junio a raison, c'est sur un scénario original de Sébastien Japrisot. Bravo Gérard, je m'aperçois qu'on a des vraies grosses têtes qui s'y connaissent en cinéma aujourd'hui. Mais saurez-vous aussi, et c'est la question suivante pour Alice Gras, qui habite Dunkerque.
Oh, elle a beaucoup perdu.
Mme Gras espère, Madame Gras espère un chèque RTL. Et je voudrais vous parler d'un médecin qui s'appelait Paul Nogier, un Lyonnais, d'ailleurs, il est né à Lyon, il est mort à Lyon, Paul Nogier. Et il a inventé, on va dire, une nouvelle forme de médecine, laquelle ?
L'homéopathie.
Non, c'est vrai qu'il était aussi homéopathe, mais l'homéopathie existait déjà.
Est-ce qu'il a inventé la phonophorèse, c'est-à-dire la phonophorèse.
Elle invente.
Non, je n'invente pas, ce sont des fréquences sur les points d'acupuncture.
Et quelle est ta fréquence, à toi ?
Et dérégler ta fréquence, à toi. Hein.
Est-ce que c'est très en vogue encore aujourd'hui ? C'est vraiment, il y a une sorte de mode où
alors,
on va
écoutez,
souvent...
je peux vous dire que moi, j'en ai profité récemment, par
c'est
exemple.
C'est l'hypnose ?
L'hypnose, non.
L'ostéopathie ?
Ostéopathie.
La cataracte ?
Non.
C'est un massage ? C'est un massage ?
Non.
Et cas, vous avez bénéficié de ça pour arrêter de fumer ?
Exact, monsieur Bassi.
Ah, c'est le fil dans l'oreille.
Le fil dans l'oreille.
On met des plans dans les oreilles.
Comment ça s'appelle ?
Ça s'appelle le...
L'auriculothérapie.
Bonne réponse collective.
Et c'est quoi, Laurent? Comment on fait alors? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait, le monsieur? Qu'est-ce qui vous a...
C'était une dame, oui. C'est pas forcément un monsieur qui vous auricule. C'est une dame, l'auriculo...
Vous pouvez montrer ou vous pouvez... C'est quoi l'opération?
Qu'est-ce que je peux montrer?
Non, mais
ça fait mal en plus.
J'ai rien à montrer.
Que ça a marché dise.
Ah bah, ça a très bien marché.
Oui.
Oui, ça a la preuve, vous voyez, c'est que je ne fume
C'est dans
plus.
Une petite région de l'oreille, très déterminée, où on vous met, où on vous pique un petit morceau de fer, quoi.
Oui, c'est ça, exactement.
C'est du fer ou de...
L'idée, ce serait que l'oreille serait un microsystème qui reflèterait tout le corps représenté sur la surface externe du pavillon, voyez-vous.
Ah oui. Vous avez tellement recommencé à fumer, tellement arrêté.
Oui, mais la preuve quand même que... Ça fait arrêter.
Oui.
Sauf qu'à chaque... Mais non, parce qu'il faut... La bêtise qu'on fait à chaque fois, c'est d'en reprendre une. Oui. Il ne faut évidemment jamais en retoucher une seule. Il n'empêche
De quoi
que...
parlez-vous?
Il n'empêche que dans un premier temps, ça a fonctionné, voyez-vous.
Ça marche par intermittence chez Laurent.
Non,
une
ça marche pas par intermittence.
Une fois, il
n'entend
pas.
Non, non, la médecine en elle-même fonctionne, puisque j'arrête. Maintenant, la bêtise, c'est que quelques mois ou quelques années plus tard, un connard va vous proposer une cigarette.
Mais oui.
Et là, il faut surtout... toujours
résister,
dire non.
Faut résister.
Voilà. Je vous ai raconté comment j'ai arrêté, moi.
Allez-y.
J'ai sacralisé la dernière clope.
C'est-à-dire?
Il faut lui faire un sort, sinon c'est jamais la dernière.
Et c'est quoi, sacraliser?
Donc, il faut lui faire un sort. Moi, je me baladais dans Paris, j'ai grimpé, j'ai vu un échafaudage, je suis monté et j'ai vu les Parisiens en tout petit. J'ai pris une clope, j'ai hurlé. Regardez, c'est ma dernière. Je l'ai fumée, j'ai jeté le mégot. Quand j'ai quitté Notre-Dame, j'étais fier de moi.
Qui fait quoi? À vous de jouer sur RTL. Camille, 36 ans, habite Paris 20e et nous attend au téléphone. Bonjour Camille.
Bonjour.
Camille, vous allez...
Bonjour
Camille.
Bonjour Camille.
Camille, vous allez essayer de deviner, de parier, quelle grosse tête connaît le mieux les noms qui font l'actualité aujourd'hui. Tout à l'heure, on jouera aux fake news. La valise RTL, c'est maintenant entre 17 et 18 heures, vous le savez. Mais juste avant les infos de 17 heures, c'est le qui est qui fait quoi.
Et elle fait quoi, Camille?
Ben justement, vous faites quoi, vous?
Alors, Camille, elle est designer textile.
Designer textile. Mmh. Et elle
je
espère...
Des petites tours Eiffel que je mets sur des pochettes.
Ou des petites Notre-Dame avec Laurent Baffy en train de fumer.
Exactement.
Et en tout cas, on vous souhaite de partir dans un bel hôtel, hein, un magnifique hôtel 4 étoiles, l'hôtel Côte-Ouest au Sable d'Olonne. C'est pour vous. J'en ai parlé toute la semaine.
Ah oui, il y a la piscine à fond de sable.
Ah oui, la piscine à fond de sable. Ouais. Voilà, les hectares du parc privé, la thalasso, tout, Bulles flâné.
Premier hôtel anti-vax.
Ah oui, ouais, c'est un magnifique hôtel. Allez voir sur le site internet, hein, hôtelcôteouest.com. Mais Camille, il faut prendre une décision. Laquelle des grosses têtes suit le mieux l'actualité, écoute le mieux les infos, lit les journaux?
J'ai fait mes petites statistiques et je pense que c'est Yoann Rioux.
C'est pas bête de miser sur Yoann Rioux.
On y croit.
On va essayer tout de suite.
Allez,
d'ailleurs.
Yoann.
Allez, Yoann. Commence par lui, d'ailleurs. Yoann Rioux, pouvez-vous me dire qui était David Sassoli?
Oui, c'était le président du Parlement européen qui vient de décéder à quelques jours de la fin de son mandat.
Excellente réponse de Yoann Rioux.
T'as bien fait de pas miser sur moi.
David Sassoli, c'est un Italien de 65 ans seulement, président du Parlement européen, qui vient de mourir. Effectivement, vous restez dans la course, Yoann, mais attention, on n'est qu'au début du qui est qui fait quoi. Il faut que j'élimine maintenant tous les autres. Je vais essayer, Camille, je ne vous promets rien. Laurent Baffy, pouvez-vous me dire qui est Gilles Simon?
Un tennisman. Et c'est le mari de Nolwenn.
Mais il n'est pas mari de Nolwenn, Gilles Simon.
Non, il c'est l'autre qui l'a grillé. Clément, c'est Clément qui est le mari de Nolwenn. Mais c'est un tennisman.
Et c'est pas fait tout Roland Garros.
Non, mais elle aime bien les balles neuves, je la connais.
Gilles Simon, en tout cas, est bien un tennisman qui vient de sortir du premier tour de l'Open d'Australie. Je vous accorde la bonne réponse.
Merci.
Monsieur Junio. Alors, de toute façon, on aura déjà un duel, ça c'est sûr, Camille, entre Baffy et Rioux. Alors, je tente d'éliminer Junio. Monsieur Junio, pouvez-vous me dire qui est Emmanuelle Wargon?
Oui, elle est écolo, non? C'est une ancienne ministre écologiste.
C'est-à-dire, monsieur Junio.
Écologiste.
Elle a la petite salope dans le fond.
C'est quoi la faillotte?
Il me semble qu'elle est écologiste, non?
Elle était perdue.
Elle est surtout ministre du logement. Éliminée, Gérard Junio. Ariel Dombal, vous étiez en train de vous moquer de vos petits camarades.
On va voir, oui.
Ariel, pouvez-vous me dire qui est Patrice Evra?
Patrice Evra est un homme assez remarquable.
Mais oui, en plus. Mais moi, je sais qui c'est.
Oui, et justement, il a un nouveau poste qui peut changer les choses. Il est nouveau secrétaire d'État.
Oui, bien sûr. C'est un ancien joueur de foot. Il a 40 ans. Évidemment, il faisait partie des Bleus, Patrice Evra. Et il vient de sortir son autobiographie, I Love This... Oula.
Ah oui, c'est ça.
I Love This Game.
Et il a eu des petites bricoles quand il était...
Oui, des petites bricoles. Il s'est fait violer. Oui, voilà. C'est ce que vous appelez des petites bricoles.
Voilà.
T'en es pris beaucoup, des petites bricoles, toi.
Patrice Evra vous élimine, Ariel Dombal. Valérie Mérès, pouvez-vous me dire, chère Valérie, qui est Emmanuelle Franck? C'est une femme, hein, Emmanuelle Franck.
Oui, elle est verte.
Je ne sais pas si elle est verte, mais...
Elle aime bien, enfin...
Elle a du boulot, en tout cas.
Chez les Verts, quoi.
Elle a du travail, Emmanuelle Franck, croyez-moi.
Ouais, parce que personne ne veut la suivre avec Jadot.
Ah non, c'est l'avocate de Cédric Jubilard. Vous êtes éliminée, Valérie Mérès. Jean-Phi Janssen.
Oui, je vous en prie vivement.
J'étais Michou.
Jean-Phi, qui est Hervid N'Gapet.
Qui que ça?
Erwin N'Gapet.
Erwin N'Gapet.
C'est qui porte une vilaine casquette?
Non, Erwin N'Gapet, c'est celui qui a créé la marque Erwin Ngapet.
C'est un des meilleurs joueurs de volleyball au monde.
Bah, oui.
Et ce soir, il va affronter son club initial.
Il joue en Italie avec Modène et il joue contre Tours ce soir, je crois.
Exactement. Huitième de finale aller de la Coupe d'Europe. C'est un des meilleurs joueurs de volley du monde.
C'est pas Ngapet, c'est pas Galipet.
Non, c'est Erwin Ngapet. Il fait partie de l'équipe de France.
Ah oui, bah, il est des titres à n'en plus finir.
Il est médaillé olympique, Erwin Ngapet, avec l'équipe de volleyball. Voyez-vous, vous êtes éliminé, Jean-Fi. Donc, duel final entre Johan Rioux et Laurent Baffi. Camille.
Ah oui.
Ah, il faut toujours encourager Johan, hein, c'est lui que
allez,
vous avez choisi.
C'est parti.
Allez, la chose.
Normalement, merci. Perd tout le temps. Alors, il doit perdre.
Oui, je perdrai pour vous, Camille.
Super.
Je vous le promets.
Johan Rioux, qui est Florence Obnas.
Oui, oh bah, d'ancienne formidable journaliste, une journaliste du Monde, et qui est une écrivaine. Et là, son livre vient d'être adapté au cinéma. Le film sort aujourd'hui, Wistreham.
Excellente réponse. C'est précis, c'est clair. Monsieur Baffi, Monsieur Baffi, pouvez-vous me dire, cher Laurent, qui est Thibaut Pinot ?
Eh bien, Thibaut Pinot, et c'est de la famille de Pinot. Pinot qu'on appelle le milliardaire Pinot, qu'on appelle Pinot simple fric. Hein. Je parle sous le contrôle de...
simple fric au lieu de simple flic, c'est bien, mais Thibaut Pinot vient d'annoncer qu'il participerait au prochain Tour de France. Il n'a pas fait
le tour. Eh bien, je voulais rendre... hommage à Gérard Jugnot qui nous a quittés trop tôt.
Il a 31 ans, Thibaut Pinot. Il n'a pas fait le dernier tour, hein, ouais. C'est ça. Mais il fera le prochain, il vient de l'annoncer à 31 ans, Thibaut
Pinot. Je le savais,
Pinot.
Camille, c'est pour vous.
Le grand gagnant, c'est Johan Rioux. Ouais. Et surtout, la grande gagnante, c'est Camille. Bravo, Camille. On se retrouve après les infos.
Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL.
Toujours avec Ariel Dombal, Valérie Mérès, Jean-Philippe Janssen, Johan Rioux, Laurent Baffi et Gérard Jugnot. Oh, une question à la portée de tout le monde et j'espère tout de même un chèque pour Monsieur Distel, Ronald Distel, qui habite Vulaine-sur-Seine, en Seine-et-Marne. La question concerne quatre lettres, les lettres V, S, O, P. Où les trouve-t-on régulièrement ?
Sur les bouteilles de cognac.
Ah, on voit les alcoolos. Hein. Sur les bouteilles de cognac. Bonne réponse de Gérard Jugnot et Laurent Baffi. Et qu'est-ce que ça veut dire ?
VSOP. Il y a pâle dedans.
Oui, effectivement, ça veut dire Very Superior Old Pearl pour qualifier un cognac, un armagnac aussi, ou un calvados, voire même du rhum. Ça veut dire que ça a été élevé au moins 4 ans et demi sous bois. Voilà ce que ça veut dire.
En fût de chêne.
VSOP. Voilà, 4 ans au minimum dans un tonneau, VSOP, Very Superior Old Pale. Ça vous aidera à choisir la prochaine bouteille que vous m'offrirez, cher Laurent ou cher
Gérard. Avec plaisir.
La question suivante pour Monsieur Jean Cric, qui habite Ballancourt-sur-Essonne. Attention, concerne quelqu'un dont il faut retrouver le nom et qui fut académicien français. Un académicien français dont le nom, hélas, n'a pas, on va dire, il n'est pas passé à la postérité pour son œuvre, mais à cause d'un drame. Ah. Quel est le nom de cet académicien français qui a pourtant écrit quelques pièces de théâtre célèbres à son époque, mais dont on ne connaît le nom uniquement à cause d'un drame, d'un fait divers?
Il a tué quelqu'un?
Il n'a tué personne, lui, non.
Il y a quelqu'un de sa famille qui est
mort? Il s'est suicidé, non.
Ah non, il ne s'est pas suicidé.
Il a
jeté sa femme par la fenêtre?
Ah non, non plus. Non.
Il y a eu un accident?
Il était dans une catastrophe? Il a été une victime d'une catastrophe?
Ah non, lui, pas du tout. Non,
il a tué quelqu'un, non?
Non, c'est vrai que son nom est associé à une catastrophe et on le connaît pour ça, alors qu'on ne connaît pas le fait qu'il fut académicien, qu'il ait écrit des pièces.
Quelle époque?
C'est à cause de lui que la catastrophe est arrivée?
Pas du tout.
Il a survécu. Justement.
C'est le hasard qui fait que son nom...
C'est un homonyme?
Ah, pas du tout.
Quelle époque, ça?
Alors là, lui, il a été élu à l'Académie française en 1882.
Ah oui,
il est mort en 1899. Mais la catastrophe a eu lieu bien plus tard.
C'est pas Marcel Tchernobyl? C'est pas Marcel Tchernobyl?
Non, mais vous voyez, c'est pas bête. Parce que vous avez compris, vous voyez. Mais c'est
sur
pas
le Titanic? C'est un rapport avec le Titanic?
Non, aucun rapport avec le Titanic, non.
Et c'est une catastrophe naturelle ou c'est un...
Ah non, c'est son nom est associé à une catastrophe, mais bien après
la mort. Ah, ça y est, je sais, Monsieur Molotov.
Pouf.
Non.
Non, mais Monsieur Jugnot a mis le doigt dessus. Expliquez-leur,
Gérard. Sur quoi, sur Ariel?
Non.
Non, c'est que, en fait, son nom a été donné à, je sais pas quoi, une place ou à...
Ben, Molotov.
Ou à un monument et il y a eu un...
Exact.
Une catastrophe.
Les Nanmen.
Ah, c'est un barrage qui s'est écroulé?
Un barrage, non.
Un volcan ?
Un volcan, non.
C'est une construction humaine qui s'est effondrée.
Et alors, en quelque sorte, oui.
Ah, c'est Monsieur le World Trade Center.
Non, non, non. Monsieur World Trade Center n'a jamais été à l'Académie française.
Monsieur Forlani ?
Est-ce que ça s'est passé pendant la Commune ?
Non, ça s'est passé dans les années 70.
Monsieur Fréjus, le barrage qui s'est explosé.
C'est un bâtiment ?
Fréjus, c'est le nom d'une ville, voyez-vous.
C'est la colonne de Vendôme.
Un bâtiment ?
Un bâtiment, oui.
Qui s'est effondré.
Alors, effondré, et pour cause.
Qui a brûlé.
Qui a brûlé, oui.
Ah, le jeu de paume, non, le...
Monsieur Notre-Dame.
Ah non.
Monsieur Bazar de la Charité.
C'est à Paris, Laurent.
C'est un théâtre à Paris.
C'est rue Lafayette, non?
Alors, c'est à...
Ah, Monsieur Trévise.
Non, mais c'est à Paris, effectivement.
Rue Lafayette.
Rue Lafayette, non. Il y a quand même eu 20 morts hein, dans cette affaire.
20 morts par le feu?
Par le feu, oui.
Oui, quand
oui souvent dans
général,
les incendies, hein. C'est rarement des dégâts des eaux. Hein.
Un lieu public, donc.
Un lieu public.
Commerçant.
Il y avait même 16 enfants sur les 20 victimes.
Oh, c'est une école.
Une école,
oui, un lycée même.
Édouard Pailleron.
Édouard Pailleron. Excellente réponse de Laurent Baffy. Eh oui. Le collège Édouard Pailleron, rue Édouard Pailleron à Paris, a brûlé en 1973. Et en fait, si on connaît le nom d'Édouard Pailleron, c'est plus à cause de ce lycée ou collège qui a brûlé pour l'œuvre d'Édouard Pailleron, qui fut pourtant un dramaturge, poète, journaliste et académicien français. Encore une bonne réponse de Laurent Baffy. Bravo Laurent.
RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news.
Maximilien nous appelle depuis Düsseldorf. Qu'est-ce que vous faites en Allemagne, Maximilien? Bonjour.
Collabo.
Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour à tout le monde.
Bonjour.
Je suis architecte à Düsseldorf.
Architecte à Düsseldorf. C'est une jolie ville, Düsseldorf.
Très joli, je vous recommande.
Eh ben, très bien, parfait. Et il y a du boulot pour un architecte là-bas, alors?
Bah oui, sinon il ne serait pas connard.
Mais non, mais il aurait pu suivre sa femme.
Il est gay, ça se passe.
Y être en congé, moi, Maximilien.
Vous y êtes rencontré l'amour.
Vous y êtes depuis combien de temps Vous y êtes depuis combien de temps à Düsseldorf?
Ça va faire 3 ans.
Et vous écoutez les grosses têtes en podcast depuis l'Allemagne, alors j'imagine?
Exactement, tous les jours.
Tous les jours. Maximilien, ce qui compte maintenant, c'est de bien écouter mes grosses têtes. J'en ai 6 grosses têtes et 5 qui vont vous mentir, vous donner une fausse info. Une seule vous donnera l'actualité telle qu'elle est. Vous connaissez le principe, Maximilien.
Parfaitement, oui.
Et si vous gagnez, vous partirez à la montagne. Un joli séjour vous est promis. Une pension complète pour 4 personnes dans une destination Milléade. Milléade, ce sont des villages clubs au pied des plus belles pistes, soit dans les Alpes, soit dans le Jura. C'est vous qui choisirez. Des animations en journée, en soirée, des clubs enfants. Vous avez des enfants, Maximilien ?
Non, pas encore.
Ah, j'en étais sûr.
Faites-en d'ici là, on ne sait jamais.
Non, c'est pas sa cam.
Maximilien, n'écoutez pas Laurent Baffy. De toute façon, chacun fait comme il
Exactement,
veut.
Exactement, d'où la présence de Jean-Philippe.
Nos auditeurs, on les accepte tels qu'ils sont, toutes
Exactement.
Et tous.
Voilà. La famille, c'est quand même un papa et une maman.
Maximilien, n'écoutez pas Baffy. Écoutez les 6 grosses têtes de toute façon. Attention, Ariel Dombal démarre.
Allez.
Après le buzz de Stromae ayant chanté aux 20h de TF1, France 2 lance sa contre-offensive. Ce soir à 20h, le JT sera entièrement mis en musique. Éducation nationale, 11 syndicats appellent à la grève demain. Novavax, un 5e sérum arrive, c'est un nouveau vaccin. Présidentielle, un nouveau sondage, Anne Hidalgo à moins 1. C'est la Pix qui chante, qui sponsorisera l'événement.
Laurent Baffy.
Éric Zemmour s'est déclaré favorable au retour de la blouse dans les écoles pour les petits blancs et le retour du blouse obligatoire pour les petits noirs.
Johan Rioux.
Novak Djokovic a enfin été libéré. Il pourra jouer le tournoi de Levallois contre Patrick Balkany.
Jean-Phi Janssen.
Oui, Maximilien. La Lufthansa a annoncé, afin de ne pas perdre ses créneaux aéroportuaires, maintenir des milliers de vols sans passagers. Un rêve pour tous les stewards.
Gérard Jugnot.
Jean-Michel Blanquer instaure le contrôle continu dans les écoles. Les parents d'élèves devront faire deux petits trous dans le masque de leurs enfants pour qu'on puisse y introduire deux cotons-tiges de manière permanente. On en trouvera aussi des touffettes dans Pif Gadget.
Valérie Mérès. Bah
oui, mais...
C'est une première mondiale. Deux chirurgiens américains ont réussi à greffer sur un patient le cœur d'un porc génétiquement modifié. L'identité du patient, Harvey Weinstein, vient d'être dévoilée.
Alors, qui a dit la vérité, Maximilien ?
Alors, je me rends compte que Ariel Dorman n'a plus les bonnes réponses.
Alors, Maximilien, réfléchissez bien. Hein.
Non, ça, c'est vrai que Anne-Sophie Lapix ne va pas chanter ce soir aux 20h.
Je crois que c'est Jean-Phi Janssen avec Lufthansa.
Jean-Phi ?
Oui, parce que, oui, je sais, mais Mustapha, il travaille à Lufthansa, il doit aller à Brûler en ce moment. Hein.
C'est qui, Mustapha ?
Mon ex !
Ah, c'est pas vrai ?
Oui.
Ah,
oui.
Il était steward aussi ?
Ah, bah, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, à l'autre
Mais je savais pas, je connais, je me souviens du Mustapha qui avait volé des coupes en cristal chez votre maman.
Oui, ça, c'est vrai aussi, bah oui.
Voilà. Ah, bah, c'est ce qu'on appelle les vols à terre. Ah mais je savais pas qu'il était steward aussi.
Ah oui, on s'était rencontré à Bangkok dans la discothèque. Hein.
Et alors c'est vrai que la Lufthansa va faire des vols sans passagers.
Pour pas perdre les créneaux, effectivement, oui.
C'est fou ça.
C'est
alors.
Oui, mais sinon ils perdent les créneaux. Alors,
mais est-ce qu'il y aura vraiment des stewards à bord s'il n'y a pas de passagers?
Ah, c'est obligé pour la sécurité du vol, c'est obligé. Donc c'est une règle pénalisante, c'est un steward par paire de portes, pas par paire de couilles, hein, paire de portes.
Ça peut être les
la
deux.
Règle, c'est un steward par paire de portes dans l'avion. Parce que selon les avions, il y a différentes. C'est
pas un steward ou une hôtesse ? Vous comptez les hôtesses aussi ou pas ?
C'est pareil, hein, le masculin l'emporte sur le féminin.
On peut pas dire ça pour des stewards.
Mais je pense qu'il y a un tel tollé que ça va.
C'est pas écolo du tout.
C'est chez vous ça, à Düsseldorf, la Lufthansa, Maximilien ?
C'est en Allemagne. Après, il y en a à Düsseldorf, oui.
Greta Thunberg va gueuler. Elle va laisser passer ça, Chucky.
Ça, c'est vrai. En tout cas, bravo, vous avez trouvé la bonne info. Les autres camarades grosses têtes, Ariel, vous avez évidemment deviné que non, le 20h de France 2 ne serait pas chanté. C'est vrai qu'Éric Zemmour est favorable au retour de la blues dans les écoles. En fait, il veut faire les choristes 2, il a dit Éric
Zemmour. Les fans de Jugnot.
Gérard Jugnot va être ministre de l'Éducation nationale à la prochaine présidentielle.
Et il veut aussi mettre l'Élysée à Vichy. Il a plein d'idées.
Quant à Valérie Mérès, évidemment, le départ était vrai. Hein. Deux chirurgiens américains, oui. Vous l'avez entendu, ont réussi à greffer sur un de leurs patients le cœur d'un porc.
Incroyable.
Qu'est-ce qu'il y a, vous, là-bas ?
Le corps du porc ressemble vachement au corps humain.
Oui, de chez vous, surtout.
Bah oui, mais c'est vrai.
C'est l'animal qui ressemble plus à l'homme. J'ai lu le papier, c'est extraordinaire.
Ah bah, vous voyez, jusque-là, vous ne pouviez pas donner vos organes.
Ah ben bah là, oui.
Maintenant, non. Vous allez pouvoir en faire don à la science.
Si tout est bon dans le cochon, pourquoi la cochonne, tu ne lui bouffes que le cul?
Au revoir, Maximilien. Vaut mieux lancer la pub dans ces cas-là. Une question pour Gérard Triclin, qui habite Rambouillet dans les Yvelines. Je vais vous donner le nom d'un romancier dramaturge français que vous ne connaissez pas forcément. À mon avis, il n'est pas plus connu qu'Édouard Peyron. Mais hélas, lui, il n'a pas eu le droit à un incendie dans un lycée qui portait son nom. Je veux parler de Gauthier de Coste de la Calprenède.
Bah, bien sûr.
Hein ? Ça ne vous dit rien, ça, bah, voyez. Ah ben non, ça ne vous dit rien. Et pourtant, c'était un grand dramaturge, un grand romancier au XVIIe siècle. Ouais. Il est né en 1609, il est mort en 1663, la Calprenède. Pourquoi vous dites oui, monsieur Junior ?
J'acquiesce.
Eh ben oui. Et d'ailleurs, on lui doit surtout un célèbre roman qui s'appelle Cléopâtre. Il s'est intéressé à Cléopâtre, mais sous forme de fiction. Et dans son Cléopâtre, monsieur de la Calprenède a inventé un personnage qui, lui, alors pour le coup, ce personnage, est passé à la postérité grâce à une célèbre expression française.
Ah oui ?
Quel est ce personnage ?
Popeye ?
Popeye, non. Bah,
Néron,
Hérode.
Quelle
Hérode.
Est l'expression avec Popeye, vous voyez ?
Si, c'est, tu veux une petite olive ?
Non.
Néron ?
Néron, mais il n'y a pas d'expression avec Néron.
Ah non, c'est Cicéron, Hérode. Cicéron, Cicéron.
Cicéron, non, quelle est l'expression
avec Cicéron ? Cicéron, c'est pas carré.
Cicéron, c'est pas carré.
Ah oui, non, d'ailleurs, non.
Hérode.
Mais pourquoi Hérode ?
Bah, c'est vieux comme Hérode.
Non, non, non.
Artabas.
Comment vous dites ?
Artabas. Artaban.
Artaban.
Il est fier comme Artaban.
Fier comme Artaban.
Excellente réponse de Laurent Baffi. Alors là, bravo.
Ah oui.
Et oui, Artaban, le personnage.
Comme Bartaban.
Le personnage de ce roman, Artaban, est devenu plus célèbre que l'auteur parce qu'effectivement, cette expression fière comme Artaban, on la trouve uniquement au départ dans ce roman de Gauthier de Coste de la Calprenède, célèbre roman à l'époque qui s'appelait Cléopâtre, roman qui n'est pas passé à la postérité. En revanche, effectivement, l'expression fier comme Artaban, elle, est devenue très célèbre.
Et alors, pourquoi est-ce qu'il était si fier ?
Et ça veut dire quoi, fier
Il était fier parce qu'il a eu comme maîtresse Cléopâtre.
Bah, par exemple, M. Baffy, qui a trouvé beaucoup de réponses aujourd'hui,
peut être fier comme Artaban.
Voilà, il ressortira de cette émission fier comme Artaban.
Et non pas comme un petit banc.
Voilà, alors après...
Ou comme un bar-tabac, comme disait Coluche.
En fait,
Coluche, il a piqué ça à... C'est pas de Coluche, en fait, je crois. C'est de Frédéric Dard ou Michel Audiard. Et Coluche l'a récupéré ensuite. Fier comme un bar-tabac, mais au départ, évidemment, la vraie expression, c'est fier comme Artaban. Et Artaban, c'est bien un personnage de ce roman Cléopâtre, signé Gauthier de Coste de la Calprenède, qui, lui, pour le coup, n'est pas passé à la postérité. Quelqu'un d'autre qui aurait pu passer un peu plus encore à la postérité, c'est celui avec qui Pierre et Marie Curie ont partagé leur prix Nobel de physique en 1903. C'est la question suivante pour Alexandre Nizard, qui habite Orval. Qui s'agit-il ?
C'est pas Paul Langevin ?
Ah, Paul Langevin, non.
C'était l'amant de Marie Curie, Paul Langevin.
Ah oui, mais c'est pas Paul Langevin.
Oui, il n'a pas partagé tout. Hein.
Prix Nobel de physique avec Pierre et Marie Curie.
C'était un Allemand ?
Ah non, c'est un Français.
Connu ?
Un physicien français, bah connu, oui, puisque je vous demande son nom. Et sauf qu'effectivement, il n'a pas eu de chance parce qu'il a eu le Nobel avec les Curie. Enfin, avec les Curie.
Ah, c'est un cheval alors. C'est Belle de Mai ?
Avec Pierre et Marie.
Il a partagé le Nobel sur la même expérience ?
Ah, bah oui, évidemment, si on leur a donné le Nobel à tous les trois, c'est parce que.
Il est connu pour d'autres découvertes ?
Voilà, il a découvert.
Le radium.
En inox ?
La radioactivité. Non, il n'a pas découvert en inox, il a découvert la radioactivité.
Avec les Curie.
Avec les Curie, oui.
Ah oui.
Est-ce que ce n'est pas Mesmer ?
Non.
Il a fait autre chose d'important dans sa vie ?
Non.
Il a créé ?
Non, mais on a donné son nom à autre chose.
Une station de métro.
À une mesure, Celsium ?
À une mesure, oui, monsieur Junio.
Celsium ?
Celsium, non.
Celsius ?
Gégère.
Gégère, non.
Ah, ça y est, je sais, Fahrenheit.
Ah, Fahrenheit, non.
Dès que tu dis je sais, c'est une connerie. Hein.
Faut pas prendre le texte de Caroline Diamant, Ariel.
Ampère.
Ampère, pas du tout.
Oh.
Ampère et
mais ça aurait pu être Ampère.
Ça aurait pu être Ampère, mais c'est pas Ampère.
Pas Micron.
Micron non plus. Il découvre la radioactivité. Eux, ils découvrent le polonium, le radium.
Ah, ça y est, je sais.
C'est pas Silver.
Monsieur Volt.
Monsieur Volt, non.
Non, ça c'est Claude François.
Ou Gilbert Bécaud.
C'est pas Silvert.
C'est pas Silvert non plus.
Et on a donné... C'est la mesure de la radioactivité.
Exact, c'est l'unité physique de la radioactivité.
Ah, le quarks.
Le quarks, non.
Zébulon.
Zébulon, non.
Le gluon.
Enfin...
Le GGM.
Non, c'est une mesure.
Il y a trois syllabes.
Ah, c'est une mesure de quoi, le gluon ?
Eh bien, c'est une mesure au cœur de l'atome.
Le riz gluon.
Il y a des protons. Et des gluons.
Il y a des gluons.
Oui, oui, vous des pouvez aller vérifier sur tous les manuels de physique.
Moi, je suis intolérant aux gluons.
Il y a trois syllabes dans le mot.
Oui, un prénom, il y a trois syllabes. Et c'est vrai qu'il a donné son nom, ce physicien français, à l'unité physique de ce qu'il a découvert, c'est-à-dire la radioactivité.
Et c'est avec le compteur Gégère qu'on mesure.
Et pas de chance pour lui, on lui a donné le prix Nobel de physique avec Pierre et Marie Curie. On a retenu les deux autres et vous, manifestement, vous n'avez pas retenu son nom à lui. Et c'est bien dommage.
Monsieur Lithium.
Monsieur Lithium, pas du tout.
Becquerel ?
Comment vous dites ?
Le Becquerel ?
Oui.
Un peu comme ça.
On est prêt, on se rapproche.
Mais tout prêt, monsieur Junio, mais je veux le nom et le prénom. Attention.
Le Bécaro, Thierry Bécaro.
Le Bécheral.
Ah non. Ah, c'est dommage, on n'est pas loin, mais vous aurez peut-être ainsi aidé des personnes dans le public. Monsieur Nizar à Orval va toucher déjà un chèque RTL de 300 euros. Yoann Rioux, il met son casque au moment où il faut aller dans le public. Vous savez qu'avec un fil et un casque, on ne peut pas bouger, Yoann Rioux.
Bonjour madame, comment vous appelez ?
Bonjour Florence, enchantée.
Vous êtes heureuse d'être là ?
Ravie.
Super, j'espère que vous allez avoir ce chèque. Alors la bonne réponse.
D'où venez-vous d'abord madame ?
Je viens d'Aix-en-Provence.
Aix-en-Provence.
Oh. Vous êtes venue spécialement pour l'émission ?
Absolument.
Oh, magnifique. Et c'est un bon moment ?
Et qu'est-ce que vous faites dans la vie madame ?
Je suis œnologue.
Œnologue.
Ah. Alors, la bonne réponse selon vous ?
Monsieur Becquerel.
Eh oui, et son prénom, vous l'avez des fois ?
Je crois que c'est Pierre.
Non, Becquerel. C'est pas Pierre, mais je vais quand même vous l'accorder.
Merci
c'est
beaucoup.
Henri Becquerel.
Bravo, madame,
Henri
bravo.
Becquerel, bravo. N'étiez pas loin, Gérard.
Ah,
Et oui, les Becquerel.
Henri Becquerel.
C'est un dictionnaire.
Ah non, c'est le Becquerel.
C'est le Becquerel.
Le Becquerel. Henri Becquerel, prix Nobel de physique avec Pierre et Marie Curie. Et je confirme, quand même pour faire plaisir à Ariel, que les gluons sont les bosons de jauge responsables de l'interaction forte. Les gluons confinent les quarks ensemble en les liant très fortement en physique. Je sais pas où elle a lu ça.
Non, mais ça doit
être des voisins, eux, les gluons.
Allons dîner chez les gluons.
Ils sont très collants.
Mais effectivement, le substantif dérivé, c'est la glu. La colle vient du gluon. Merci, Ariel, pour cette précision qui, hélas, n'avait en tout cas rien à voir avec la réponse. Bravo à madame pour son Becquerel.
RTL. La valise.
La valise RTL, 1082 euros hier. Hélas, on avait une auditrice qui connaissait bien la valise, qui nous écoutait régulièrement, mais elle n'avait pas entendu pendant la nuit Caroline Dublanche qui avait ajouté le livre de Franck Tilliez, 1991. Il y a trois choses en tout dans la valise maintenant, en plus de 1082 euros, somme initiale. Hier, j'ai rien ajouté. Donc, normalement, si on tombe sur un bon auditeur, fidèle auditeur de RTL, la valise est gagnable aujourd'hui. On va la confier à Ariel, évidemment.
Oui. Bah, bien sûr, hein.
Soyez pas jalouse, Valérie. Vous allez donner un numéro, Valérie.
Ça sert à rien la journée des rousses. Hein.
Bon, bah, je vais donner le 8. Hein.
Le 8, très bien. Il est question d'appeler maintenant Céline Nicez. Elle habite à Grabel, dans l'Hérault, Céline. Ouais, oui. Ça a sonné chez Céline Nicez, dans l'Hérault. Première sonnerie chez Céline. Ariel, vous êtes prête ?
Oui, oui, oui. Céline Nicez.
Eh ben.
Pendant que M. Junio va pisser. Si vous retrouvez Pierre Bénichou, vous nous le dites. Hein.
04.
C'est fou tous ces vieux qui vont pisser.
Mais c'est fou ça. Alors Madame Nicez, je crois qu'elle est sous machine.
Oui, on peut dire ça comme ça. Valérie, un autre numéro.
Alors le 16.
Le 16. Monsieur Christian Bélisère qui habite Oisserie en Seine-et-Marne. C'est parti. Ça se passe bien, les répètes avec Jean-Philippe Janssen, Valérie.
Oh oui, on a une scène assez torride. Hein.
Ah oui, on couche ensemble à un moment, oui.
C'est crédible.
C'est de la science-fiction.
Oui. Surtout le moment où elle me pénètre.
Oh. Regarde, regarde, Gérard. T'as le rouleau de PQ qui se déroule. Là.
Allô ? Allô ?
Oui, oui.
Allô, allô, est-ce que je suis bien ?
Ah,
ben bravo, bravo. Alors, monsieur Bélisère, est-ce que vous savez pourquoi on vous appelle ?
Oh non, vous ne m'appelez pas pour la valise, rassurez-moi.
Si, bien mais sûr si. Qu'on vous appelle pour la valise.
Oh là là. Ça fait plaisir aux gens.
Oh là là, mais j'ai écouté un podcast que lundi. Vous avez rajouté des choses depuis lundi ?
Ah, écoutez, je n'ai rien ajouté hier, mais effectivement, on a ajouté des choses lundi, et seulement lundi.
Monsieur
oui.
Bélisère, essayez.
Tentez le coup.
1082 ?
Oui, 1082, c'est le nombre d'euros, ça.
Oui, le nombre d'euros, mais le podcast d'hier n'est pas encore sur les podcasts.
Ben vous l'écoutez, on ne guette pas.
C'est qui, à qui aujourd'hui ?
Ah ben, Laurent Baffie, que vous venez de reconnaître.
Ah oui, ça fait longtemps qu'il n'était pas venu.
Ah ben oui,
ben c'est bien d'accord, bravo.
Ah bah, s'il était aussi en forme qu'aujourd'hui, il viendrait plus souvent.
On me boude. Il y a des nouvelles recrues plus à la mode.
Je reconnais le rire de Jean-Philippe.
C'est pas ce qu'on te demande.
Oh là là, c'est pas vos stabilos là que vous utilisez toujours.
Ah non, les stabilos, ça c'était dans l'ancienne valise, ça, voyez.
Mais non, j'ai rien. Et qui a rajouté ? C'est vous qui avez rajouté quelque chose ?
Ah, moi j'ai ajouté deux choses. Quoi ? Et Caroline Dublanche avait ajouté quelque chose d'autre lundi
non,
soir.
Non, malheureusement, hier, je voulais écouter. Oh là là.
Aïe, aïe, aïe. Oh. Faites quoi dans la vie ?
Ça me fait plaisir de vous avoir, vraiment, ça me fait trop plaisir.
Christian, faites quoi dans la vie ?
Je suis commerçant.
Commerçant. Ah, sur les marchés, qu'est-ce que vous vendez sur les marchés ?
Les produits antillais.
C'est alors
manger.
Du bois bandé.
Des fruits.
Du bois bandé.
Des fruits et légumes. Mais bois bandé, bien sûr, sûrement, ouais, évidemment.
Ah bah voilà le rhum que vous voulez, Laurent.
Des épices.
Vous êtes antillais ?
Je suis antillais, ouais. Je suis quelqu'un d'antillais, ouais.
D'où ?
Alors des mangues, des bananes.
Christian. Des mangues, des bananes, tous les produits qui viennent de la Martinique, les fruits et légumes, les plats préparés sur les marchés.
Le rhum arrangé.
Le rhum à l'oranger pour les VIP, oui.
Pour les VIP,
bah, ouais, je suis le roi des acras, vous pouvez me retrouver.
Ouais. Ah oui.
Alors nous, on vous envoie une ou deux montres RTL et vous nous envoyez une petite caisse.
Vous nous lâchez une caisse, d'accord.
Il y avait 1082 euros dans la valise, ça vous le saviez, mais il y avait aussi le livre David Bowie, l'enchanteur, avec son coffret collecteur, l'album d'Alain Chamfort, symphonique Dandy. Et le dernier roman de Franck Tilliez, 1991.
Où habitez-vous, Christian ?
À Wassery, près de Meaux.
En Seine-et-Marne.
En Seine-et-Marne, exactement.
Eh bien oui, on va vous offrir, tiens, des places pour aller applaudir Jean-Philippe, Stéphane Plaza et Valérie Mérès.
Ah oui.
Et je vous offre mon guide de la répartie, Christian.
Ah ben voilà.
Et si vous saviez, j'en ai en plus de la répartie.
Ah ben, on entend bien, on entend bien.
Content, hein.
Mais pas sur la valise, mais sur le reste, sûrement.
Non, mais je peux prendre que le... Moi, ça ne me dérange pas de prendre que l'argent, hein, les 1082. Hein.
Écoutez, pour les prochains que nous appellerons, sachez que je vais ajouter aujourd'hui, écoutez bien, un week-end offert par demeuredecampagne.com, la demeure de campagne du parc de Coudray, qui est entre Étampes et Fontainebleau, saura vous accueillir le temps d'un séjour avec petit déjeuner, dîner, brunch, activités, cours de cuisine, atelier cocktail, sans oublier le spa nature, deux massages d'une heure chaque massage.
Avec finition.
Allez voir sur www.demeuredecampagne.com. Le week-end a une valeur de 950 euros, c'est pas mal quand même. Un week-end par demeuredecampagne.com dans la valise RTL, en plus de tout ce qu'il y avait déjà. Et Christian, on vous envoie les cadeaux, le livre, les places de théâtre et la montre pour vous. Dans un instant, l'invité mystère.
Mais qui est l'invité mystère ? On cherche sur RTL.
Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère, vous m'entendez bien ?
Oui, absolument.
C'est toujours la vérification d'usage avant que mes camarades puissent vous poser toutes sortes de questions. Attendez-vous au pire.
Donc il n'est pas sourd, déjà, ça élimine pas mal de gens.
Et vous êtes un homme.
Une fille.
Bah, ils ne sont pas d'accord. Valérie pense que vous êtes une
vous
femme.
Vous êtes une femme ?
Jean-Phi pense que vous êtes un homme. Qui a raison ?
C'est Jean-Philippe qui a raison. Comme
non, c'est vent, pas hein, c'est Zizi.
Je reconnais les hommes.
Est-ce que vous êtes vacciné ?
C'est d'ordre privé.
Non, c'est ce que je vous demande et vous répondez.
Ah, ça ne m'est... Et je vais vous dire, vous avez mis le doigt sur quelque chose d'intéressant.
C'est pas la première fois.
Je ne suis pas surpris par sa réponse, en tout cas. N'est-ce pas, invité mystère ?
Absolument.
Répondez-moi. Ah. Êtes-vous vacciné ?
Mais laisse-le
non, parce que
tranquille.
Sinon, il ne viendra pas ici.
Non. Invité mystère, est-ce que vous êtes célibataire ?
Non.
Bah, vous vivez avec une femme ou un homme ?
Avec une femme.
Est-ce qu'elle est vaccinée ?
Est-ce que vous êtes amie avec Francis Lalanne ?
Pas spécialement.
Pas spécialement, je le connais.
Est-ce que vous êtes amie avec Laurent Ruquier ?
Nous nous connaissons bien.
Ami, hein ? Non, mais on se connaît.
Est-ce que Laurent est vacciné ?
J'ai cru comprendre que oui.
Oui, absolument.
Invité mystère, est-ce qu'il vous arrive d'être sur les écrans ?
Ça m'arrive.
Est-ce que vous êtes chauve ?
Non.
Ah non, plutôt du genre chevelu même, hein, on peut dire.
Ah oui.
Invité mystère, est-ce que le stylo est important pour vous ?
Très.
Et l'encre ?
Voici un premier indice musical.
Personne à voir les essais, allez, 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 allons. Personne à voir les essais, don't ask me how I know.
Alors celle qui chante en anglais qu'on entend avec la voix masculine, il y a une voix féminine, c'est une homonyme. Voilà pourquoi c'est un premier indice un peu difficile, vous l'aurez compris, invité
ah,
mystère.
Oui.
Ah, oui.
Très difficile.
Est-ce que vous êtes en ce moment sur scène ? Est-ce que vous êtes en spectacle en ce moment ?
Non.
Êtes-vous déjà monté sur scène ?
Pas pour un spectacle.
Pas pour un
spectacle. Êtes-vous bien monté déjà ?
Ah, donc vous n'êtes pas acteur ?
Non.
D'abord, un deuxième indice musical.
La lambada, on n'aime pas ça, nous on préfère la java. La lambada, on n'aime pas ça, nous on préfère la java. En général, plus c'est con et plus ça marche à fond.
Ah, je ne sais pas, invité mystère, si vous avez reconnu le nom du groupe qui chante la lambada, on n'aime pas ça.
Peut-être les Fatal Picard ?
Non, c'est pas les Fatal Picard.
Pas de marque à l'antenne.
C'est un nom de groupe qui vous ferait pas forcément plaisir, même si peut-être vous appréciez.
Ah oui, je sais.
Alors, ne dites rien, mais on dira tout à l'heure évidemment quel est le nom de ce groupe.
Vous êtes journaliste ?
Oui.
Est-ce que politiquement, vous êtes engagé?
On peut le dire.
On peut le dire.
Vous êtes journaliste, on vous voit en télé?
Ça m'est arrivé, oui.
Gérard Jugnot propose Pascal Pro. Êtes-vous Pascal Pro?
Non.
Non plus.
Donc, on peut le dire maintenant, vous êtes anti-vax?
Pas du tout.
Voici un troisième indice. Vous l'aimez bien, cette chanson, Invité Mystère?
J'adore.
Laurent Baffy propose Jean-Jacques Debout. Vous n'êtes pas Jean-Jacques Debout.
Alors, je sais, Jean-Jacques assis?
Non plus.
Couché?
Vous êtes pour la cause animale, alors?
Oui.
Je l'ai.
Vous avez travaillé avec Laurent?
Oui.
Voilà une question pertinente de la part de Monsieur Jugnot.
Ah, vous mangez pas de viande?
Non.
Ariel Dombal vous a identifié, Jean-Fille Janssen aussi. Johan Riou vous a identifié, voici encore un indice.
Les fruits, les légumes, c'est génial. Miam, miam, miam. Pour la santé, c'est capital. Miam, miam, miam. Les fruits, les légumes, c'est super. Miam, miam, miam. C'est délicieux, ça va te plaire. Miam, miam, miam. Des brocolis et des radis.
Laurent Baffy proposait Brigitte Bardot, mais vous n'êtes pas Brigitte Bardot.
Ah bon?
Yohann Riou, Ariel Dombal, Valérie Mérès vous a identifié aussi, Jean-Philippe Janssen. Il reste Jugnot et Baffy. Bah, qu'est-ce que vous foutez tous les
c'est
deux?
C'est le nom,
alors
le nom.
Ah, le nom, mais il faut que ça vous revienne, le nom.
Bah oui.
On écoute encore ça, alors, en attendant.
Je l'ai vu, j'en suis tombé amoureux, et voulant sortir le grand jeu, je l'invite à dîner chez moi. Je prépare un festin de roi. Elle s'installe et là, c'est le drame. J'avais pas prévu ça. Elle est végane. Elle me conte la voix nouée de sanglots, tous les malheurs des animaux. Je souris en hochant la tête, mais je pense à la tartiflette qui chauffe dans le four depuis tout à l'heure. Je brûle un encens pour masquer l'odeur. Elle me dit que c'est pire que de l'esclavage, ces abattoirs, ces élevages. Elle voudrait faire arrêter. Fallait que je dise adieu aux lèvres d'amour. Adieu rôti, merguez, adieu paupiette, bonjour le délice de courgette, adieu gruyère, minster, gouda, bienvenue au steak de soja, j'ai quand même un pincement au cœur. Quand je pense en secret à un cheeseburger.
Les goguettes, qu'on peut applaudir, qui ont signé cette parodie, elle est végane. Ça vous a fait rire quand même, cette chanson, Invité Mystère.
Beaucoup.
Laurent Baffy pense que vous êtes Patrick Fiori, Gérard Jugnot.
J'ai trouvé après.
Ah, mais trouvé. Abba, bah non, c'est pas Abba non plus, non. Et Gérard Jugnot, Fabrice Eboué, ça aurait pu, Fabrice Eboué, mais non. Bon, bah, je vais me tourner vers Johan Riou, Jean-Philippe Janssen, Ariel Dombal et Valérie Mérès. Oui. Notre invité mystère, c'est.
Émeric Caron.
Émeric Caron, évidemment, qui nous rejoint. Émeric Caron était bien notre invité mystère. Et il publie un nouveau roman. Quand je dis un nouveau roman, c'est pas si souvent qu'il écrit des romans, Émeric Caron. Ce sont plutôt des essais, habituellement. Mais attention, évidemment, son roman est, on va dire, les pieds dans l'actualité.
Oui, ça s'appelle J'encule Gémeaux. Alors pourquoi je le dis?
Non, ça s'appelle Nous mourrons de nous être tant haïs. Et j'allais dire, c'est un roman à la fois d'anticipation et peut-être, je devrais dire, de manque d'anticipation.
Oui, c'est très bien résumé, Laurent. C'est effectivement un roman qui essaye d'expliquer notre cécité face à la crise écologique et à la crise en général, à l'effondrement que nous vivons. Et c'est vrai que je me replonge dans notre histoire depuis les années 50. Notamment dans les années 70, on a eu beaucoup de signaux d'alerte qui nous sont parvenus sur le réchauffement climatique. En 79, c'est la première réunion sur le réchauffement climatique. À ce moment-là, les États-Unis pensent vraiment engager une politique qui contrerait le réchauffement, puis elle va y renoncer dans les années 80. Je m'intéresse également à la montée du néolibéralisme avec l'arrivée de Thatcher au pouvoir. Enfin, j'essaye d'expliquer...
À la télévision aussi.
À la télévision.
Qui se transforme.
Qui se transforme. Et j'essaye d'analyser... En inscrivant chacun mes personnages dans une réalité vraiment que historique, j'essaie d'analyser comment effectivement.
C'est votre premier roman quand même.
Ouais, c'est le tout premier.
Et
ouais,
c'est très réussi.
Pourquoi vous dites ça vous?
Parce que c'est un pote.
Parce que vous n'avez pas lu encore le roman.
Oui, c'est un pote, il faut soutenir les potes.
Ah
oui,
merci, parce que merci.
Ça,
merci,
c'est
Laurent.
Le parti animaliste qui se retrouve. Laurent Buffy et Émeric Caron.
Eh bien, moi, justement, l'indice qui m'a fait découvrir, je crois, c'est le groupe qui était les Garçons Bouchers.
Exact.
Oui. Ah, voilà.
Les Garçons Bouchers, c'est bien eux qui chantaient la Lambada, on n'aime pas ça. Puis après, évidemment, Chantal Goya, le lapin qui a tué un chasseur, ça commençait à être évident. La première qu'on a entendue chanter, si on peut la réécouter, après on reviendra au livre. C'était Leslie Caron. Voilà. Leslie Caron, si vous aviez reconnu sa voix, ça vous aurait aidé, parce qu'effectivement, une Caron peut cacher un Caron. Émeric Caron qui publie donc son premier roman, mais un roman où il cède effectivement de la situation, on va dire de la planète, notre planète. Est-ce que les échanges sont vrais? Par exemple, quand vous évoquez cette émission des dossiers de l'écran des années 70 où sont réunis Haroun Taziev ou Paul-Émile Victor, c'est vrai ou c'est dans votre imagination?
Non, c'est tout à fait vrai. Tous les événements et tous les personnages, hormis ceux de la famille que j'ai inventé, tous ceux qui sont cités avec une date bien précise, donc jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à 2022, sont des événements et des personnages qui ont existé. Et donc, effectivement, vous citez un moment qui est très, très parlant, puisqu'on a au-dessus de l'écran Haroun Taziev, donc vulcanologue très célèbre.
On est en 79.
On est en 1979. Et il parle de la crise écologique qui commence quand même à apparaître dans les consciences. Et en face de lui, il a le commandant Cousteau. Et Haroun Taziev alerte sur le réchauffement climatique. Il est un des tout premiers à le dire. Et en face de lui, il y a Cousteau qui lui rentre dedans en lui disant qu'il faut qu'il arrête ce discours qui est là pour faire peur. Et donc, Haroun Taziev se fait de même par les autres invités également. Hein. Il y a un climatologue qui est là aussi, qui lui dit que c'est faux. Le présentateur qui est très dubitatif. Donc, ça fait longtemps qu'il y a des gens qui alertent comme ça et qu'on n'écoute pas.
Le présentateur dit à Haroun Taziev, vous êtes en train de paniquer les populations.
Exactement.
Moi, je me dis donc, si je vous écoute, on a une trentaine d'années devant nous à peu près.
Oui, je pense en réalité que si on n'a pas des mesures politiques très fortes qui sont prises dans les 5, 6, 7 années qui viennent, oui, je pense qu'on sera face à une catastrophe majeure d'ici 20 ou 30 ans. Absolument.
Et que ce sera...
Oui,
moi, ça me va. Moi, perso, ça me va.
Moi, ça me va aussi.
Parce que ça me va.
Vous n'avez pas d'enfant, Laurent.
Non, effectivement. C'est pour ça.
Mais alors, nous mourrons de nous avoir tant haïs. Alors, haïs, c'est qui, pas qui, contre qui?
Je pense que c'est très général. Je pense qu'on a, dans la nature humaine, malheureusement, une tendance à tout vouloir gérer par le conflit, plus que par l'écoute, plus que par la possibilité d'écouter ce que l'autre a à dire. Mmh. On le voit bien dans les discours politiques en ce moment. Laurent Baffy faisait une référence tout à l'heure à l'opposition très forte que je manifeste à l'égard des idées d'Éric Zemmour. Et je suis un de ses plus grands adversaires et je regrette que cette personne ne soit pas traitée aujourd'hui comme elle doit l'être, c'est-à-dire comme un néo-fasciste. Je pense qu'aujourd'hui, on a laissé s'infuser dans la société des réflexes, des discours qui nous sont extrêmement préjudiciables et qui disent quelque chose de nous qui est très grave. Bref, il faut absolument changer complètement nos logiciels de pensée, nos logiciels politiques.
Sur la télévision, je lis ce passage quand même, qui est fort juste au fond quand on réfléchit un peu. La télévision avait commencé à multiplier les programmes où les participants se faisaient juger sévèrement, si possible, puis éliminer. Parfois, les téléspectateurs étaient amenés à voter pour déterminer les bannis, mais le plus souvent, un jury était composé spécialement pour l'émission et celui-ci devait légitimer son rôle par des remarques sévères et vexatoires. Il arrivait aussi, perfidie suprême, que l'on demandât aux candidats de choisir eux-mêmes celui ou celle dans d'entre eux qu'il souhaitait voir partir. Chant, cuisine, humour, aventure ou autre, pour montrer son talent, il fallait désormais accepter la mise en scène de son échec et la médiatisation de son humiliation, devenue essence même du programme. L'antéléchie de ce concept consistait à réunir des individus dans une maison, à les laisser vivre ensemble pendant des semaines sans occupation particulière et à leur demander ensuite de s'éliminer au fur et à mesure sur des critères laissés à l'appréciation de chacun, le tout sous la surveillance permanente des caméras. Ce genre d'émission relevait de l'abject, mais l'indignation originelle de quelques-uns avait été rapidement balayée par l'engouement populaire pour ce vide sacralisé. Vous allez même jusqu'à raconter ce moment où la télévision invente des jeux dans lesquels des personnes invitées chez d'autres attribuent des notes à leurs repas et à leurs hôtes. C'est vrai qu'on n'aurait pas imaginé ça avant.
C'est des choses qui m'ont profondément scandalisé. C'est devenu la norme. La première fois que j'ai vu des émissions apparaître à la télévision, effectivement, on était invité dans un mariage, par exemple, dans un repas, et le concept consistait à dire à celui qui vous avait invité qu'il était nul, qu'il avait été très mal reçu. Que, voilà. Et je me suis dit, mais c'est devenu quelque chose qui apparemment est du spectacle, quelque chose qui doit nous divertir.
T'es pour ou contre les chiffres et les lettres?
J'aimais bien les chiffres et les lettres.
Quand même, non?
Ça existe toujours, les chiffres.
Mais bien sûr, c'est une émission qui perdure.
Le roman des années qui ont changer le monde, comme je l'ai dit, je crois qu'on ne peut pas mieux résumer ce livre et ce roman que comme ça, un livre à la fois d'anticipation et de manque d'anticipation. C'est signé Émeric Caron chez Robert Laffont. Nous mourrons de nous être tant haïs. Merci Émeric Caron.
Merci
d'être
pour
venu
votre accueil.
Jusqu'aux Grosses Têtes. À demain, 15h30 pour d'autres Grosses Têtes.